You may be seated. Thank you very much, Brother Shores.
Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, frère Shore. C'est un... Je considère vraiment que c'est un grand privilège d'être ici ce soir dans cette première assemblée de Dieu pour communier de nouveau autour de la parole de Dieu avec vous, les braves gens qui sont ici, et être de nouveau avec notre précieux frère Shore, ainsi que tous les frères que nous avons rencontrés au courant de la semaine. Et nous avons vraiment passé des moments formidables ces deux dernières semaines. Je ne sais pas si j'ai jamais passé, depuis des années, jamais passé des moments aussi merveilleux que cette semaine, des moments de communion avec les frères dans la vallée de Maricopa. Depuis tout là-bas à Mesa, là, et jusqu'à Tucson, c'est-à-dire Jérusalem, bien sûr, sur la colline. Et nous sommes heureux de visiter nos frères de Jéricho, ici, voyez, ici dans la, au bas de la colline. Je me demandais comment ça allait être perçu. Alors, quand j'étais ici, il y a bien des années, il y avait toujours une rivalité entre Tucson et Phoenix. Donc, j'y pensais l'autre jour, vous savez, on me taquinait en disant que je prenais parti pour Tucson. Alors j'y pensais, eh bien, c'est sur une colline et Jéricho est dans la vallée, vous savez. Alors je me suis dit que c'en serait une bonne. Eh bien, ainsi, nous attirons monsieur entre deux, un autre qui descend. Nous voulons travailler pour l'aider. Bon, ça a été des moments formidables, comme je le répète, et nous nous sommes vraiment réjouis énormément. Maintenant, nous sommes dans une grande expectative, dans l'attente de cette convention qui commencera demain soir. Nous nous attendons à passer des moments merveilleux. Et à cet effet, j'ai essayé de poser, à mon humble manière, un fondement pour stimuler les gens, en quelque sorte, en vue de ces réunions de réveil qui viennent. Et là, il y aura de très bons prédicateurs à ces réunions de réveil qui approchent maintenant. Frère Velmer Gardner est un frère méthodiste qui est censé être un grand orateur. Puis, pour couronner le tout, il y aura notre précieux frère Oral Roberts, lundi soir prochain. Et j'espère que Dieu donnera aux frères des messages tellement bons que les gens de Phoenix tomberont à genoux, tremblant dans la crainte de Dieu. Et nous nous sommes efforcés cette semaine de poser un fondement pour cela, pour l'apparition imminente du Fils de Dieu. Et je crois, et j'ai toujours enseigné, qu'il est tout à fait possible qu'il vienne maintenant, dans cette génération-ci, même ce soir. Nous ne savons pas quand cela va arriver. Mais nous voulons être tellement prêts que, lorsque cela arrivera, nous partirons avec lui dans l'enlèvement. Nous avons passé des moments merveilleux. J'ai prêché ces messages puissants sur sa venue, essayé de présenter les possibilités et l'heure dans laquelle nous vivons maintenant. Et que tout, à mon humble avis, est prêt pour la venue du Seigneur, l'enlèvement, la prochaine chose, et que tout ce qui reste pourrait arriver d'ici une heure. Je crois que beaucoup, je ne sais pas vraiment combien, mais plusieurs prophéties remarquables au sujet de l'accomplissement de la venue du Messie et de ce qu'il ferait se sont accomplis dans les 7 dernières heures à la croix. Ils ont percé mon côté et aucun os n'a été brisé. Et il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et les grandes prophéties se sont accomplies, 1, 2, 3, 4, comme ça, simplement à 1 ou 2 heures d'intervalle. Eh bien, cela pourrait arriver de la même manière à son retour. Et nous devons être vigilants dans l'attente, Hier soir, je pense que nous avons passé des moments formidables là-bas, à l'Assemblée de Dieu au sud. Je pense que c'est Southside, peut-être. On l'appelle l'Assemblée de Southside. J'ai rencontré un brave frère que je n'avais pas encore rencontré dans mon parcours, à ce que je me souvienne. Mais c'est un précieux frère, et c'est un bon groupe de gens. Et hier soir, là-bas, nous avons apporté un message sur le fait qu'il soit comme une oasis, un lieu. Se souvenir de lui, de tout ce qu'il a fait, quand nous nous réunissons, assis dans les lieux célestes en Christ, et pour nous souvenir des choses qu'il a faites et des choses qu'il a promis de faire, et qu'il a promis qu'il viendrait nous rencontrer. Là où deux ou trois étaient assemblés en son nom, là, il serait au milieu de nous. Alors je me suis dit que la souveraineté de Dieu avait été si merveilleusement démontrée quand il est descendu parmi nous, et qu'il a prouvé qu'il était là, de nouveau, au milieu de nous. Cela prouve de manière infaillible que nous sommes près de la fin. Et ces choses qu'il a promis de faire, tout à la fin, nous y sommes maintenant confrontés. Je suppose que, peut-être, la plupart des gens ici sont des gens sauvés. Et nous sommes ceux qui prient et qui déploient des efforts maintenant pour la convention qui vient. Et nous voulons nous y appliquer de tout notre être et faire tout ce que nous pouvons. Nous voulons nous assurer de parler à chaque pécheur pendant la période de cette convention. Aller vers chaque homme d'affaires, vers chaque personne qui n'est pas sauvée, et vers ceux qui sont sans Christ, sans le Saint-Esprit. Nous voulons venir vers eux avec le message, vers les gens, avec une approche sensée et solide de l'Évangile. Que nos vies soient tellement salées que les autres, en voyant notre manière d'agir et de vivre, voudront eux aussi vivre comme ça. Vous savez que Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel a perdu son témoignage, sa saveur, son pouvoir d'attraction, alors il ne peut plus guérir ni conserver. Le sel conserve quand il entre en contact. Et nous devons être le contact de Dieu. Nous sommes son point de contact. Comme Frère Roberts fait souvent référence au fait de mettre sa main sur la radio ou quelque chose pour servir de point de contact. Eh bien, ce soir, vous m'entendrez peut-être parler d'une manière un peu bizarre, mais au cours des trois ou quatre dernières soirées, j'ai dû prendre ma voix aiguë. L'autre est épuisé. Ainsi, je parle d'une voix aiguë, qui provient davantage du haut de ma bouche. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, mais je suis obligé de le faire pour empêcher la partie inférieure de faire mal. Vous savez, Dieu nous fait un peu d'une manière où, si une partie est usée, nous pouvons en utiliser une autre. Quelqu'un, vous savez, une réserve. Et quelqu'un m'a demandé, quelqu'un une fois a dit, « Comment arrivez-vous à marcher d'un si bon pas dans les montagnes ?» et tout le reste. Je lui ai dit, « Eh bien, j'ai appris cela des Indiens, une petite technique, il y a bien des années. » Vous voyez, on peut marcher en se servant des genoux sans trop utiliser les hanches et laisser les hanches se reposer. Puis, marcher à l'aide des hanches en avançant à grandes enjambées et laisser les genoux se reposer. Voyez-vous? Donc, on ne fait que se reposer et marcher. Se reposer et marcher. Se reposer et marcher. C'est comme ça qu'on prêche, en prenant la voix aiguë, puis la voix grave. La voix aiguë et la voix grave. Laissez l'une se reposer et l'autre. Oh, Dieu a fait quelque chose de merveilleux quand il a créé l'homme. Vous savez pourquoi? C'est à son image qu'il l'a créé. Donc, qu'est-ce qui pourrait être plus merveilleux que Dieu? J'ai beaucoup prêché sur la venue de Christ dans cet âge-ci. Alors j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne chose ce soir de fixer un peu notre attention sur certaines de ces choses dont j'ai parlé et présenter par l'Évangile la gravité de l'état actuel de ce jour et voir si nous avons nous-mêmes ce qu'il faut pour cette heure. Comment le savons-nous? Cette convention est peut-être la toute dernière que ces hommes d'affaires tiendront. Vous savez, c'est peut-être la dernière soirée où la première Assemblée de Dieu et toutes les autres églises partout dans le pays seront ouvertes. Demain, Cela pourrait arriver. Elles seraient toutes fermées. Nous ne savons pas. Il se peut que ce soit la dernière fois que cette Bible est lue à cet auditoire. Donc, examinons cela un peu ce soir pour voir où nous en sommes, pour voir la gravité pendant un petit moment. Et puis, nous allons essayer de terminer tôt afin de permettre aux gens de sortir sans vous retenir trop longtemps. Cette semaine, j'ai fait une petite remarque qui manquait de délicatesse, à savoir que je vous retiens longtemps dans la soirée. Comme je sais que de manquer juste une journée de travail ne vous fera pas de mal. Mais j'ai dit, mais le samedi soir, je ne peux pas du tout vous retenir longtemps, parce qu'il ne faut pas que vous manquiez l'école du dimanche. Vous devez être là, à votre poste. Donc, maintenant, je ne vous retiendrai pas longtemps ce soir, parce que je veux vraiment que vous soyez là demain soir. C'est pour cela que nous avons fait tous ces efforts, pour ce glorieux moment. Et maintenant, priez pour tous ces frères qui vont prêcher. Priez que Dieu oigne ses messagers. Et la dernière soirée, ce sera Frère Oral. On l'a choisi pour couronner le tout, cette série de réunions. Je pense à cette dernière fois où c'était le dernier jour de la fête, quand Jésus s'est tenu là et s'est écrié dans le temple. Oh, puissions-nous entendre cela de nouveau. Que Dieu s'adresse à nous à grands cris et nous appelle à venir à ses côtés. Qu'il réunisse dans l'Église ses rachetés, son épouse qu'il s'est acquise dans sa grâce par son propre sang. Et nous prions pour cela. Maintenant, nous allons nous tourner vers le Seigneur dans la prière, juste avant que nous abordions sa parole. Parce que, vous savez, la parole ne peut être un objet d'interprétation particulière. J'aime donc que l'auteur la révèle. Et restez en dehors de cela, vous savez, afin que nous puissions croire que c'est lui qui le fait. Alors, courbons la tête maintenant. Et alors que nous courbons la tête, courbons aussi notre cœur. Courbons simplement notre cœur devant Dieu. Maintenant, avec notre tête et notre cœur inclinés, y a-t-il une demande dans votre cœur ce soir? Mon concitoyen du royaume, mon frère pèlerin, vous qui séjournez ici à Phoenix et ailleurs, alors que nous nous sommes rassemblés dans cette belle petite église ce soir, pour l'adorer, y a-t-il une demande que vous aimeriez faire connaître à Dieu? Gardez cela dans votre esprit, élevez simplement la main et dites, « Seigneur, fais que ce soit moi ce soir. J'ai un besoin urgent. » Puisse-t-il, je sais qu'il le verra, il l'entendra, il l'exaucera. Notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant de toi par la foi. Nous nous sommes unis et nous présentons notre prière comme une seule personne. Par la foi, nous partons d'ici, la 11e rue et Garfield, et nous montons par la foi au-delà de la lune et des étoiles, au-dessus de la blanche voie lactée, et nous allons au-delà des paysages terrestres, jusque dans la présence de Dieu. Et là, sur l'autel où se trouve le sacrifice, et où les chérubins et les séraphins volent au-dessus de l'autel de Dieu, en s'écriant « Saint ». Oh, quel endroit où se trouver! Mais avec cette parole écrite par le Fils de Dieu qui dit, « Si nous demandons quoi que ce soit au Père en son nom, il nous l'accordera. » Et il est assis là, avec ses vêtements sanglants. Le prix a été payé, afin que nous qui sommes indignes puissions nous approcher de lui en tant que fils et fille, après que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Et ce soir, nous te prions, ô Père Céleste, premièrement de pardonner notre iniquité et tout ce que nous avons fait et dit qui n'était pas juste à tes yeux. Et, ô Dieu, nous savons que les choses que nous avons faites sont innombrables. Aie pitié de nous, ô Dieu, car nous ne disons pas ces choses justes pour qu'on nous entende. Mais nous disons ces choses dans l'amour, et avec respect, et avec la foi que Dieu nous entendra et exaucera nos prières pour les autres et pour nous-mêmes. Tu sais ce qu'il y a derrière chaque main, l'objectif et le motif. Seigneur, étends tes grandes et saintes ailes, pour ainsi dire, ce soir. Et puissions-nous ressentir tellement ton auguste présence parmi nous ce soir, que nous serons dans la crainte. Ô Dieu, nous voulons bien savoir où nous en sommes à présent. Nous nous examinons, faisons l'inventaire de nos vies. C'est peut-être le moment juste avant l'enlèvement, l'appel pour le départ. Et nous attendons avec impatience cette série de réunions à venir demain soir, au Ramada. Et nous voulons examiner notre propre vie ce soir et voir ce qui nous manque, afin que nous soyons des instruments dans ta main, de l'argile formée et façonnée par le Dieu du ciel, afin de pouvoir participer à ce grand événement qui s'en vient, pour lequel nous fournissons des efforts pour aucune autre cause que dans l'intérêt du royaume et pour la gloire de Dieu. Bénis nos faibles efforts de cette semaine, Seigneur, pour tenter de susciter parmi les gens une prise de conscience de l'heure où nous vivons. Parle-nous ce soir par la lecture de la parole, et puisses-tu prendre le texte et révéler le contexte de la façon dont le Saint-Esprit voudrait que nous le comprenions. Et toute la louange t'en sera donnée. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Comme beaucoup de gens aiment noter les passages et comptent avoir des moments où ils aimeraient y faire référence. Et souvent, les ministres, comme moi aussi je le fais, nous prenons parfois note d'un passage pour nous y référer. Un prédicateur a prêché là-dessus et nous, une petite pensée a attiré notre attention et nous aimons nous y référer parfois en disant, « Eh bien, j'ai vu quelque chose ». Pendant qu'il disait ça, c'est très bien. Maintenant, nous voulons lire ce soir dans la Bible, dans l'Épître aux Philippiens, la lettre que Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 2, de 5 à 8. Nous aimerions le lire comme texte, alors que vous lirez avec nous, ou que vous nous accordez toute votre attention, tandis que nous nous appliquons à lire cela. Maintenant, pendant que vous prenez le passage dans l'Écriture, j'aimerais dire qu'il m'a été accordé à moi, votre frère, le privilège de prêcher dimanche après-midi prochain à la Convention. J'avais l'intention d'être là le reste de la semaine et de m'asseoir quelque part dans l'auditoire ou quelque part pour écouter et pour remplir et nourrir ma propre âme de la parole de Dieu. Pendant que nos frères la porteront et aussi les témoignages des hommes d'affaires, j'espère vous voir tous là-bas. La réunion aura lieu dans l'après-midi, alors les églises seront fermées partout. Vous serez plus que les bienvenus. On vous attend à cette réunion et à toutes les autres réunions. Maintenant, dans Philippiens 2, 5, nous lisons. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour ce que j'aimerais intituler ou que j'aimerais dire, un sujet intitulé « Identification ». Identifions, identifier à la ressemblance des personnages bibliques. Être identifié à la ressemblance des personnages bibliques. Et ce soir, j'ai pensé, en abordant ceci, après que nous avons parlé de sa venue au cours de la semaine, et de ce que l'Église devrait se préparer. Aujourd'hui, quand j'étais assis dans la chambre, j'avais prévu quelque chose sur lequel je voulais parler ce soir. Le sacrifice suprême. Mais il semble... Le Saint-Esprit semble m'avoir éloigné de cela, en quelque sorte, vers un autre canal de pensée. Tous les ministres savent ce que c'est. Vous avez à l'esprit quelque chose que vous voulez dire. Et puis, tout d'un coup, vous sentez que vous devez dire quelque chose d'autre. Peut-être quelque chose de contraire. C'est peut-être pour une seule personne. Je ne sais pas, mais je suis assez mature en Christ pour savoir qu'il faut suivre la conduite de l'Esprit. Ce que l'Esprit dit de faire, faites-le. Ce soir, je suis sûr que nous devrions nous retrouver quelque part dans un personnage de la Bible pour que nous sachions ce qu'est devenu ce personnage et savoir ce que nous deviendrons. Ça me rappelle une petite histoire que j'ai entendue une fois d'une dame qui avait amené son petit garçon de quelque part à la campagne où il vivait et l'amener en ville pour rendre visite à sa grand-mère. Et le petit garçon qui vivait là-bas, dans mon coin de pays, dans le Kentucky, la campagne, ça signifie la vie dans une maison en rondin, quelque part, avec de vieux bardeaux. Et donc, chez nous, notre miroir, c'était un morceau de miroir fixé sur un arbre, ou dehors, où une petite tablette avait été fixée sur l'arbre, afin de se laver près de la pompe à eau. Et là, papa pompait de l'eau et se lavait les mains. Et il y avait là un morceau de miroir. Et j'ai vu maman se tenir là et peigner ses cheveux, parce qu'il n'y avait pas de miroir dans la maison. Ce petit garçon doit avoir grandi dans une telle maison. Et quand il est venu rendre visite à sa grand-mère, celle-ci avait une porte derrière laquelle se trouvait un miroir. Et le petit garçon semblait un peu souffrir de la solitude, et il regardait partout dans la maison. Au bout d'un moment, il a regardé par la porte. Elle avait été fermée depuis qu'ils étaient arrivés. Et dans le miroir à côté de lui, il a vu un petit garçon. Il s'est avancé vers ce petit garçon pour se lier d'amitié avec lui. Et il s'est mis à regarder dans la glace, tout en s'en approchant. Il s'est retourné et il a dit, « Eh bien, maman, c'est moi, et c'est ce que nous voulons regarder ce soir. Je veux me regarder, et je veux que vous vous regardiez. » Et alors que nous regardons dans le grand miroir de Dieu, le miroir de sa parole, que nous puissions nous identifier à quelques-uns de ceux dont nous allons parler, quelques-uns des personnages d'autrefois. Et je veux me voir dans le miroir de Dieu. En effet, s'il y a une chose qui peut vous montrer où vous en êtes, c'est bien ce livre-ci. Il n'y a aucun livre comme celui-là, car il est entièrement la vérité. Je ne dis pas que les autres livres ne sont pas vrais, mais je sais que celui-ci est vrai. Il est entièrement la vérité, parce que c'est la parole de Dieu. Or, Jésus nous a donné l'exemple de ce que nous devrions rechercher, quand il nous a présenté le reflet de sa vie par la parole, ce que nous devrions voir. Quand nous regardons dans le miroir de Dieu, nous devrions voir que nous sommes identifiés à lui. Voilà un exemple parfait. Mais bon, nous constatons qu'au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, notre caractère façonne l'image que nous sommes. Chacun le sait. Vous, au fur et à mesure que votre vie avance, votre caractère vous façonne en ce que vous êtes. Maintenant, vous avez connu des gens en compagnie desquels vous aimez vous trouver. Pourtant, ils ne sont peut-être pas exactement de votre rang social. Et aussi, ils sont peut-être d'une autre race, des gens de couleur, de race brune ou de race jaune. Mais il y a quelque chose dans cet individu qui fait que vous aimez beaucoup vous trouver en sa compagnie. C'est parce que chaque personne est une petite dynamo en soi, et vous créez une atmosphère. Et puis, vous rencontrez des gens qui sont de nobles personnes, mais vous êtes toujours content quand vous vous éloignez d'eux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils créent une telle atmosphère autour de vous. Vous n'avez rien contre eux, ce sont des gens bien, mais vous n'aimez pas du tout cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère crée ce qu'ils sont et fait d'eux ce qu'ils sont. Quand Dieu a regardé sa création perdue, après qu'il l'avait formée et façonnée exactement comme il la voulait, et j'aime la regarder comme elle était à l'origine. J'aime beaucoup la nature parce que là Sûrement que les choses sont comme il les veut, sinon il ne les aurait pas faites comme ça. Mais nous venons pervertir cela et nous en faisons quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais son caractère, plein d'amour, façonné, Dieu voyant que son grand plan est la création de l'homme afin qu'il habite sur la terre et vive en paix pour ne jamais mourir, ne jamais être malade, ni avoir de chagrin, ni de soucis. Oh, quelle voie que celle que le Père a pourvue pour nous. Et c'était son désir que, pour nous, d'être comme ça. Ce n'était pas son désir que nous soyons dans un état qui se meurt comme nous le sommes. Là, et cette condition dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui, ça n'a jamais été le désir de Dieu. Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Mais quand il a vu que sa création était tombée, alors il a façonné son propre caractère, plein d'amour, dans la personne de Christ. Le caractère de l'amour de Dieu lui-même l'a projeté dans l'homme, Christ. Comme Paul le dit ici, il n'a point regardé comme une proie arrachée de se faire égal, d'être égal à Dieu, plutôt. Voyez, son propre caractère a façonné ce genre de personne-là. Oh, personne d'autre que Dieu ne pouvait le faire. Cela a été fait afin qu'il puisse expier la peine à cause de la chute de sa création. Voyez, il fallait qu'il y ait quelque chose pour sauver cette création, et rien ne pouvait la sauver parce que l'espèce la plus élevée de sa création était tombée, et tout ce sur quoi elle avait autorité est tombé avec elle, à cause de sa chute. Il ne restait qu'une chose qui n'était pas tombée, et c'était Dieu, les cieux. Donc, quelque chose devait descendre des cieux pour racheter cette création, parce qu'il n'y avait rien ici-bas qui puisse produire cela. Et l'amour même de Dieu pour ce monde a créé le caractère exprimé en Christ. Il était le caractère de Dieu. Il était l'expression même de Dieu. Dieu était en lui, Dieu en Christ, qui se révèle au monde. Et aucun amour ne pourrait être plus grand que cet amour-là, qu'une telle personne devienne ce qu'il était, afin de racheter ce qui avait été perdu. Cela devrait, rien que cette pensée-là, devrait faire en sorte que Phoenix et le monde entier soient couverts de honte de voir l'état dans lequel nous sommes tombés. Et que Dieu se projette pour établir un plan de rédemption, pour racheter notre caractère déchu. Ceci a été fait pour que la peine soit expiée, parce que là, la peine était la mort. Une personne condamnée à mort ne pouvait pas expier la peine d'une autre personne condamnée à mort. Donc il fallait que quelqu'un qui était affranchi de la mort vienne, afin de pouvoir expier la peine. Et personne d'autre que Dieu ne pouvait venir, car il était le seul qui était affranchi de la peine de mort. Ainsi donc, le caractère de son amour, plein d'amour, oh, pour nous, cela rend Jean 3,16 très clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'est projeté et il est devenu homme, afin qu'il prenne la forme de sa création. Autrement dit, il a changé sa tente, il l'a dressée parmi des êtres humains. Et l'enfant, Jéhovah, pleurant dans une crèche. Pouvez-vous imaginer cela? Cela devrait donner l'alarme au cœur des croyants. Et tout cela a été fait. Pouvez-vous imaginer Jéhovah étant un bébé dans une crèche, dans une étable pleine de fumier? Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer le petit Jéhovah qui joue en tant que garçon? C'est un exemple. Pouvez-vous l'imaginer en tant qu'adolescent? Pouvez-vous l'imaginer dans l'atelier de menuiserie? Et pouvez-vous l'imaginer en une telle obéissance à Dieu, parfaitement, jusqu'à mourir sur la croix pour racheter sa création déchue? Voilà le genre d'amour que Dieu avait. Il a dû devenir cela afin de mourir, pour retenir l'aiguillon de la mort. Maintenant, je crois qu'il y a quelques soirs, nous parlions de quelque chose comme ça, du moment où il est venu. Et il a envoyé des prophètes et de grands hommes. Et il a envoyé Moïse et les prophètes. Et il a donné les lois. Mais tout cela ne pouvait pas racheter quoi que ce soit, parce qu'ils étaient encore des hommes assujettis à la peine de mort. Et ils ne pouvaient pas expier la peine de mort, bien qu'ils soient des poteaux indicateurs qui annonçaient cet être parfait qui allait venir. Parce qu'il n'était pas parfait. Mais quand celui-ci est né, il est né sans péché. Dieu, Jéhovah, a couvert une vierge de son ombre et a créé la cellule sanguine. Et quand cela est né, c'était le Fils de Dieu. Autrement dit, c'était un tabernacle. C'était une demeure dans laquelle Jéhovah pouvait vivre au milieu de son peuple et s'exprimer ce qu'il était. Quel exemple! Le Dieu Saint a été manifesté, et puis il a pris la place d'un serviteur pour laver les pieds. Et il a parlé, disant, « Les oiseaux ont des nids, et les renards ont des tanières, mais je n'ai pas de lieu où reposer ma tête. » Alors, quel exemple! Que reflèterait notre vie en comparaison de la sienne? Et il a donné un exemple de ce que nous devrions faire, comment nous devrions être. Nous devrions le voir quand nous regardons dans le miroir. Voir Christ, le miroir de sa parole. Voir qu'il a fait cela par amour. Et l'autre soir, nous avons fait un petit récit imagé de Christ qui montait à Golgotha et que les empreintes de pas de son sang qui coulait de son dos, où il s'était fait battre de verges. Il avait été maltraité et brisé. Et tout cela pour vous. Il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché. Mais il était fait péché en devenant une victime expiatoire. Et maintenant, il fallait que Dieu se révèle dans ses attributs, dans cette personne appelée Christ, afin de pouvoir prendre la mort sur lui. En tant que Jéhovah, il ne pouvait pas mourir, alors il fallait qu'il crée un corps pour lui-même. Et aucune femme ne pouvait produire ce corps. Alors, son propre caractère. Amen. Excusez-moi. Quand j'y pense, son caractère a matérialisé cette bien-aimée personne de Jésus-Christ. Aucune femme ne pouvait produire cela. La mère de Moïse, elle, Jochébède, elle était une grande femme, de même que Rebecca et beaucoup de ses femmes. Mais aucune d'elles ne pouvait produire ce type de caractère, parce que cela serait par le sexe, au moyen d'un peuple déchu. Mais Dieu a matérialisé son propre corps, sa demeure. C'est pour cette raison qu'il était le Fils de Dieu, car rien d'autre ne pouvait matérialiser cela. Mais son propre caractère divin a matérialisé ce tabernacle, afin qu'il puisse s'y exprimer. Et pourtant, il s'est dépouillé de sa grandeur. Et à sa naissance, il aurait pu venir accompagné d'une grande escorte d'anges pour l'acclamer. Il aurait pu venir avec les chars et les anges du ciel, mais il est venu par le moyen d'une étable. C'est son amour. Il s'est abaissé à la forme la plus basse. Maintenant, étudiez un peu ce caractère, puis regardez-vous. Et moi, je me regarde. Mais voilà ce qu'il était. Voilà qui il était. Et voilà pourquoi il était ce qu'il était. Pour vous sauver. Il a pris, il est devenu vous, pour que vous puissiez devenir lui. Il a enlevé le poids de vos péchés. C'est pourquoi, quand nous viendrons le rencontrer, nous n'aurons pas à nous tenir, nous ne pourrions pas nous tenir dans la présence de Dieu. Nous n'avons aucun moyen de le faire. Mais quand nous sommes en lui, voyez, il a déjà reconnu le sacrifice. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a reconnu cela. En lui, il n'y avait aucun défaut. Et pourtant, il a subi des tentations, comme n'importe quel autre homme. On l'a cependant méprisé. On s'est moqué de lui. On l'a persécuté dès l'heure où il est né jusqu'à l'heure où il est mort. Malgré tout, il a répondu au mal par le bien. On ne peut absolument pas produire un caractère comme ça, si ce n'est en acceptant ce caractère-là en soi. Une église ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le faire. Une dénomination ne peut pas le faire. L'instruction ne peut pas le faire. Il faut que ce soit une naissance. Il faut que ce soit une mort. Et laisser Dieu entrer par la grâce de Christ. Façonner ce genre de caractère en vous pour que vous deveniez lui et que votre vie et la sienne soient pareilles. Alors vous êtes des fils et des filles de Dieu. Puis, quand il gravissait la montagne et que sa croix creusait un sillage sur les empreintes de pas, « Oh, je souhaiterais être un artiste. Je souhaiterais être, pouvoir parler d'une manière que je puisse vous peindre mentalement un portrait du calvaire de cette heure la plus effroyable que le monde ait jamais connue. Et pourtant, les gens n'étaient pas conscients de ce qui se passait. Des millions n'en étaient pas conscients. Et puis-je appliquer ce tableau à ce que j'ai dit cette semaine? Nous entrons une fois de plus dans une heure effroyable, un temps redoutable. Et Phoenix et le monde baignent, et les églises baignent dans la mondanité et dans ce spectacle hollywoodien, l'un surpassant l'autre. Et nos fidèles deviennent mondains. Il semble qu'ils ne saisissent pas le tableau, le sérieux et la révélation de l'apparition du Fils de Dieu dans ces derniers jours. Quel moment terrible c'était! Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait un malfaiteur condamné à la peine capitale qui allait mourir ce matin-là. Pour eux, c'est tout ce que ça signifiait. Voilà ce que cela signifie aujourd'hui pour les gens, quand ils entendent le message. Un autre barbare, un autre exalté, ou un fanatique religieux. Et je ne dis pas que les fanatiques religieux n'existent pas, mais saviez-vous que on les appelle drôles d'oiseaux? Eh bien, écoutez, toute personne qui vit correctement est un drôle d'oiseau aux yeux de ce monde moderne. Nous sommes tous de drôles d'oiseaux, pour ainsi dire. Et excusez cette expression mondaine, mais c'est le seul moyen que je connaissais pour que vous saisissiez ce dont je parle. Voyez, simplement quelqu'un de bizarre et singulier. Jésus était ce genre de personne-là. Les prophètes étaient ce genre de personnes qui venaient dans l'âge quand tout devenait relâché. Et les prophètes venaient et touchaient ces relâchements, faisaient ressortir toutes ces choses devant les gens, sans mâcher leurs mots. Et leur disaient, « Le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira, parce que vous vous êtes éloigné de son programme. C'est la seule voie par laquelle il peut vous sauver. Et ils sont toujours des drôles d'oiseaux. » Et aujourd'hui, quand nous entendons le message de Dieu être proclamé, nous pensons qu'il s'agit d'un escroc, d'un détraqué, ou quelque chose comme ça. Et là, il y en a plein dans le monde, des complots, des combines lucratives, de l'indifférence, des gens ayant l'impression et parlant comme si c'était le Seigneur. Le Seigneur s'identifie toujours véritablement, voyez, et remarquez. Mais là, saviez-vous que toutes ces choses doivent arriver? Certainement. Là, la rose doit avoir ses épines. Le noyau à l'intérieur d'une noix, devrait être couvert d'une coque. Vous devez retirer la coque pour atteindre le noyau. C'est que nous ne voyons pas ces choses. Les pierres précieuses, les métaux et les pierres précieuses, et les pièces de monnaie, l'argent et l'or qui sont dans ces montagnes sont couverts de poussière, avec beaucoup de pyrite et d'autres minerais qui s'y mélangent. Nous nous attendons à cela. On doit extraire cela. Quand le prospecteur trouve ce qu'il appelle un filon, c'est de la poussière, mais il voit cela. Cela signifie que là, quelque part, il y a l'ombre d'un filon principal. Et quand nous voyons aujourd'hui ces gens qui prétendent être des chrétiens, mais qui vivent n'importe comment, qu'est-ce que c'est? C'est un filon. Il y a un filon principal quelque part. Quand nous voyons quelqu'un agir comme s'il avait le Saint-Esprit, mais que ce n'est pas le cas, et qu'il mène une vie différente, ce n'est qu'une preuve qu'il y a un véritable filon principal du Saint-Esprit qui peut être déversé, qui peut donner les choses qu'il a promises. Nous devons être très concernés et respectueux. Jésus, lors de son ascension, le diable a toujours douté qu'il était plus qu'un prophète. Il ne croyait pas qu'il était Emmanuel, Dieu manifesté dans son propre Fils. Dieu et son Fils étant un. Eh bien, il ne pouvait pas voir ça. Comment Dieu, le grand Créateur, pouvait-il se tenir là et laisser quelqu'un lui dire, « Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et comment pouvait-il, dans le prétoire de Pilate, dans les moments cruciaux, comme on les appellerait, et il était là, son visage bandé d'une étoffe, et des soldats romains lui crachaient au visage, et lui arrachaient la barbe, et le sang coulait. Et il avait une couronne d'épines sur la tête. Il avait déjà été battu de verges. Et le sang coulait librement de son côté. Et Satan observait cela. Et ensuite, on a bandé son visage d'une étoffe. Et les soldats l'ont frappé à la tête avec un bâton. Puis, ils se passaient ce bâton l'un à l'autre et disaient, « Bon, si tu peux voir ces visions, si tu es prophète, là, dis-nous qui t'a frappé. » Et il n'a pas ouvert la bouche. Alors, il se disait que Satan a dit, « Ça ne peut pas être le Fils de Dieu. C'est impossible. Il ne tolérerait pas cela. Mais les fils de Dieu tolèrent n'importe quoi, tant qu'ils savent qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il est venu faire. De la critique. Maintenant, avec notre message, pouvons-nous nous tenir devant le miroir de la parole de Dieu et la voir le reflet de Christ dans nos propres vies? Pouvons-nous supporter une telle chose et l'opprobre du message que nous défendons ici? Quelqu'un peut dire quelque chose au sujet du message, et pourtant, vous n'ouvrirez pas la bouche, et vous ne direz rien là-dessus. Il était un exemple, parce que Dieu reflétait son caractère en lui. Et alors, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, Dieu reflète son caractère en nous, puis nous devenons comme lui. Ça, c'est le désir de mon cœur. Je pense que c'est le désir de chaque croyant de devenir davantage comme lui. Puis, sur le chemin, en gravissant la colline, là, Satan a dit, « Très bien, mort. Bon, tu sais que tu es sous mes ordres. » Et le voilà. Nous l'avons enfin épuisé. C'en est au point où il est au bout de son rouleau. Il ne sait plus du tout quoi faire. Il est devenu un sujet d'opprobre parmi les gens. Son message n'a eu aucun effet. Et maintenant, le gouvernement l'a arrêté et il est vaincu. Il n'est pas Dieu. Va là-bas et enfonce-lui ton aiguillon. Retire la vie de lui. Et sur le chemin, en gravissant la colline, cette abeille a commencé à bourdonner autour de lui. Mais c'est pourquoi il devait être plus qu'un homme. s'il avait été un homme, ou seulement un prophète, ou quelque chose d'autre que Dieu, s'il avait été comme ça, la mort l'aurait piqué et il serait resté dans la tombe. Mais l'abeille de la mort est comme n'importe quel autre insecte qui a un aiguillon. Si jamais son aiguillon s'enfonce profondément, ses jours pour piquer sont terminés. Cela lui fait perdre son aiguillon. Eh bien, tant que la chair humaine était sous la forme du péché, née par le sexe, sous la malédiction, alors quand la mort piquait cette chair, l'aiguillon pouvait ressortir et en piquer une autre. Mais quand elle a piqué cette chair-là, cela lui a fait perdre son aiguillon. Elle n'a plus d'aiguillon. Il était Dieu dans la chair, ayant sa demeure parmi les hommes. Ses jours pour piquer étaient terminés. C'est pourquoi Dieu devait se refléter dans un corps, lequel que nous connaissons comme étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et il a fait cela afin qu'il puisse ôter la peine. En effet, vous voyez maintenant, nous allons passer un autre passage de l'Écriture. Mais vous voyez maintenant pourquoi cet homme était plus qu'un simple docteur, comme les gens d'aujourd'hui disent qu'il est. Un philosophe, ou un brave homme, ou un prophète. Il était Emmanuel. Il était le Fils de Dieu, qui est Jéhovah Dieu manifesté dans ses attributs qui démontre ce qu'il est dans un corps, qu'il s'est construit. Amen. C'était un reflet, et la nature de l'homme pécheur ne pouvait pas faire ce que lui, il avait fait. Voyez, ainsi, ça ne pouvait être que Dieu faisant son, se reflétant dans l'homme, faisant un miroir, afin que nous puissions voir cet homme parfait qui est Christ. Oui, ceci, en faisant cela, a reflété son noble caractère plein d'amour. Voyez, en lui, il y avait un attribut de sauveur, et cela devait se manifester. Et il ne pouvait pas être un sauveur et être un homme venu par la naissance naturelle. Il devait être plus qu'un homme, et il l'était. Il était le seul à pouvoir le faire, car il était sans péché par nature. Il était Dieu sous forme de la parole. Maintenant, Jean, au chapitre 1, explique cela. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. » Dieu est devenu chair quand il a représenté, ou quand il s'est manifesté sur la terre, sous la forme de son Fils, la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Dieu s'est manifesté dans cette personne. Jésus n'a-t-il pas dit, « Mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père. Il habite en moi. Je ne possède aucun contrôle en propre. C'est lui qui le fait. » La fontaine de la parole de Dieu exprimée. Amen. Je me sens pentecôtiste. Oui. Il était sans péché par nature, et c'est la seule chose qui pouvait projeter ce Dieu sans péché, la parole qui est Dieu. Et une parole est une pensée exprimée. Et quand Dieu a eu la pensée d'être parent, il a exprimé sa pensée, et Christ était l'expression de Dieu. Amen. Vous le voyez? Il était l'expression de Dieu, afin que Dieu puisse devenir nous et vivre comme nous, tout en exprimant parfaitement ce que la personne parfaite devrait être. Parfaitement. Il était la parole de Dieu exprimée et correctement confirmée, identifiée. Quand il était sur la terre, il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. » Et il a dit, « Lequel d'entre vous peut m'accuser de péché ?» J'aimerais éclaircir cela un tout petit peu pour vous, si vous me le permettez. Vous voyez, le péché, c'est l'incrédulité. Il n'y a que deux choses, canaux, par lesquels vous pouvez vivre. L'un d'eux, c'est la foi, et l'autre, c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Fumer, boire, commettre l'adultère, mentir, voler, les imitations charnelles, Ces choses sont des attributs de l'incrédulité. Si vous étiez un croyant, vous ne feriez pas ces choses. Non, vous faites cela parce que vous n'êtes pas un croyant. Oh, vous dites, oh, mais je suis un croyant. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez, vos actions parlent plus fort que ne le déclare votre confession. Voyez, quand vous êtes incrédule à l'égard de la parole de Dieu et que vous la considérez comme quelque chose de révolu, ou quand vous la remplacez par un livre quelconque et que vous dites « ceci est aussi bon que cela », cela montre que vous n'êtes pas un croyant. C'est vrai, vous ne l'êtes pas. Et si vous l'étiez, alors vous croiriez la parole de Dieu. Il s'exprimerait par sa parole. Or, il était la parole de Dieu exprimée. Et il a dit, « Maintenant, si vous ne pouvez pas me croire, a-t-il dit, croyez aux œuvres que je fais. Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui déclarent qui je suis. » Oh, je me demande si... Voyez, ce sont elles qui disent qui je suis. Les Écritures déclarent qui je suis. Permettez-moi d'aller un peu plus loin avec ça. Le voulez-vous? Ce sont les Écritures qui déclarent ce que vous êtes. Cela vous exprime et m'exprime. Les Écritures déclarent ce que nous sommes. Cela parle tellement fort qu'on ne peut même pas entendre notre voix. Notre vie parle plus fort que notre voix. Voyez, et c'est la manière de Dieu de nous laisser voir ce que nous sommes. Jésus a dit la même chose. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles démontrent ce que je suis. Et lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité, de péché, si je n'ai pas parfaitement... Écoutez, je parle du fait de vous regarder vous-même. Si je ne me suis pas parfaitement identifié, comme étant ce que la parole a dit que je serais. Je me demande si nous, les chrétiens, nous pourrions penser comme ça ce soir. Je me demande si nous pouvons regarder dans le miroir de Dieu pour voir ce que sont les exigences pour un chrétien et nous identifier de cette manière. Je me demande si nous le pourrions. Je me demande si nous pouvons nous identifier ce soir à Jean 3, 16 et, oh, tous les autres passages des Écritures, Marc chapitre 16 et tous ces autres endroits où, et dans Galates, je pense, et différents endroits, 2 Thessaloniciens, où les questions des fruits de l'Esprit, et ainsi de suite. Je me demande si nous pouvons nous identifier. Jésus a dit, « Lequel d'entre vous peut m'accuser que je n'ai pas accompli et fait exactement ce que les Écritures ont dit que je ferais ?» Personne n'a pu dire quoi que ce soit, parce qu'il s'était véritablement identifié. Et ils, comme ils le font toujours, le soi-disant croyant l'a identifié comme étant Belzébul, un mauvais esprit. Quand il s'est fait connaître par le discernement de l'esprit comme étant le Messie, alors ils ont dit, c'est un mauvais esprit qui est en lui, qui fait ces choses. Donc, voyez-vous, il était correctement confirmé. Il n'y avait pas d'erreur possible. La petite femme au puits n'a pas fait erreur. Elle a dit, « Seigneur, nous savons que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Mais toi, qui es-tu ?» Elle, il a dit, « Je le suis. » Et un homme qui pouvait accomplir une chose comme ça dirait certainement la vérité. La vérité de Dieu était en lui. Et ils avaient reçu le mandat. Si un prophète se levait et faisait, disait quelque chose, et que ce qu'il disait s'accomplissait, il était identifié comme étant un prophète. Elle l'avait reconnu comme étant un prophète. Et elle lui a demandé qui il était. Et il le lui a dit. Alors, cela a réglé la question. Elle s'en est allée dans la ville en courant. Et elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses. » Il n'y avait pas d'erreur là-dessus. Philippe n'a pas fait erreur. Même si, quand Philippe a essayé de lui dire ce qui s'était passé, quand il avait rencontré Simon. Mais quand Nathanaël est venu, il avait un peu de doute. Mais quand il a vu Jésus, et que Jésus lui a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu ? » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. » Il n'y avait pas d'erreur possible. Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus a dit, « Parce que je t'ai dit cela, tu crois. Maintenant, tu peux voir de plus grandes choses que celles-là. » Sa nature sans péché a exprimé la parole de Dieu. Voyez, il était la parole. Dieu s'est donc exprimé par cette nature sans péché. Permettez-moi de m'arrêter ici un instant. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais pour moi, c'est tellement bon de parler aux gens. Remarquez, voyez, sa nature sans péché a exprimé ce qu'il était. Lui, alors, si sa nature sans péché, Dieu s'est exprimé par cette nature sans péché, cela montre que notre nature est mauvaise. Et peu importe combien nous essayons de la rapiécer ou combien nous essayons de l'endoctriner par d'autres choses, elle doit devenir sans péché comme était la sienne. Et alors la parole de Dieu peut couler à travers elle. Cela ne veut pas dire que vous êtes parfait en vous-même. Vous ne pouvez pas l'être. Mais voyez-vous, même nos fidèles s'éloignent de la pratique de la sainteté. Nous commençons à lever tellement de barrières. Voyez, nous devons arriver à être ce que nous professons. Il est notre exemple et il est le porteur de nos péchés. Alors, si nous professons qu'il est celui qui nous procure la paix, qu'il est notre victime expiatoire, donc, si nous professons ça, alors c'est censé le refléter en nous. Et nous sommes une épître écrite, un miroir, pour que les gens puissent voir Christ en nous. Et là, s'ils ne le voient pas, c'est qu'alors nous sommes en train de regarder quelque chose d'autre. Et nous ne regardons pas vers lui. Regardez vers lui, toutes les extrémités de la terre, et vivez. C'est la seule manière pour vous d'y arriver. Son péché, sa nature sans péché, a exprimé la parole de Dieu au point où lui et la parole étaient un. Il l'a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. Je fais toujours ce qui est agréable. Moi et mon Père, nous ne sommes qu'un. » Il était si parfaitement à l'image de Dieu que lui et Dieu exprimaient la même chose. Il était la chair, le Fils, qui exprimait la divinité de Dieu. Ainsi, cela fait de lui la divinité dans un homme, pour racheter un homme. Voyez, lui et la parole étaient un. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Ainsi, lui et la parole sont devenus un, afin que la parole puisse exprimer et puisse montrer au monde cet exemple de ce que l'homme devrait être. Et l'homme ne peut pas être cela par lui-même. Il n'y a aucun moyen d'avoir cela par l'instruction. Il n'y a aucun moyen d'y adhérer. Il n'y a aucun moyen d'avoir cela par le baptême. Il n'y a aucun moyen d'y faire quoi que ce soit, si ce n'est de tuer cela, et que cela naisse de nouveau, et une nouvelle nature entre. C'est le seul moyen. Tuez cette nature que vous avez afin de pouvoir devenir, et là, la parole de Dieu deviendra une chose vivante. Elle s'exprimera à travers vous. Voyez? Alors vous regardez dans le miroir, et les gens vous considèrent comme un miroir. En effet, vous savez, Dieu a pourvu d'un moyen. Les gens ne liront pas la Bible. Alors Dieu a fait de vous une Bible. Vous l'êtes. Ce que vous faites, les gens vous regardent. Dieu a envoyé ses miroirs, sa propre expression dans les prophètes, parce que la parole est venue aux prophètes, et ils ont exprimé Dieu là, cependant, la prophétie que Dieu leur avait donnée. Et maintenant, Dieu s'exprime à travers son Fils, Jésus-Christ, alors qu'il nous accepte comme ses enfants adoptés, et qu'il met en nous son esprit qui s'écrie « Abba, Père ». Voyez? Ou, autrement dit, « Mon Dieu, mon Dieu !» Voyez? Puis le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Christ, qui exprime Jésus-Christ, et les gens vous regardent. Voyez? Et quand ils voient l'hypocrisie et tout le reste, ce n'est pas étonnant que nous ayons perdu notre force. Le sel a perdu sa saveur. Oh, aucune autre nature ne pouvait le faire. Non, parce qu'il était le caractère parfait de Dieu, façonné. Car ce que toute la nature avait, c'était un caractère déchu. Tous les hommes avaient un caractère déchu. Même tout ce qui était sous l'autorité de l'homme est tombé. Tout a un caractère qui se meurt. Mais lui, il avait un caractère vivant. Alors il l'a exprimé en Christ et il a payé le prix. Puis, en raison de son obéissance, il l'a ressuscité le troisième jour. Voyez? Et là, il nous donne, cela nous donne la preuve, cela nous donne l'assurance que tant que nous sommes en lui, nous sommes déjà ressuscités avec lui. Nous ne ressusciterons pas avec Christ. Nous sommes déjà ressuscités avec Christ. C'est vrai, nous sommes en Christ maintenant. Et si Christ est ressuscité des morts, ne sommes-nous pas ressuscités des morts avec lui? Amen. Nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes en lui. Oh là là! Ça, ça devrait vous faire pousser des cris, vous, les presbytériens. Ah oui, oui, bien sûr. Des expressions même de Dieu, façonnées selon Christ, pour que le monde puisse le voir en vous. Voilà le miroir qu'il faut regarder. Aucune autre nature ne pouvait le faire. Elle était déchue. Et Dieu a identifié, écoutez, Dieu s'est identifié comme étant un homme. Et il a revêtu une forme semblable au péché. Bon, là, pas le péché, mais une forme semblable au péché. Et ce, afin qu'il puisse prendre le péché du pécheur, voyez, en expier la peine, et rendre au pécheur la vie qu'il avait avant la chute. Oh là là, quel amour Dieu nous a exprimé. Voyez, pensez-y. Et maintenant, souvenez-vous, après que Jésus fait cela, quand nul autre ne pouvait le faire, nous sommes invités. Maintenant, Église, pensez à ça un instant. Nous sommes invités à façonner notre propre caractère pour qu'il soit comme le sien, par sa grâce. Nous sommes invités, pensez-y, à avoir un caractère comme le sien. Si nous sommes prêts à renoncer à notre caractère et au comportement que nous avions, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens qui essayent de faire le bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la puissance de la parole. Comment Dieu peut-il entrer dans un endroit comme ça quand il renie la parole ? Alors qu'il veille sur sa parole pour la confirmer, pour qu'elle s'accomplisse, et on écarte la parole. Comment peut-il s'identifier avec quelque chose comme ça? Nous devons accepter le plein évangile en entier. Nous devons le faire. Et maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme étant des gens du plein évangile, façonnons notre caractère. Nous sommes invités à être façonnés à son image, pour que nous puissions refléter sa présence. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. La vie que je vis, vous la vivrez aussi. Nous sommes invités par Dieu à le prendre comme exemple et à laisser notre caractère être façonné comme le sien. Quelle chose extraordinaire! Oh là là! Ensuite, quand nous laissons son caractère être en nous, alors nous devenons des fils en ayant la pensée de Christ, la pensée qui est son caractère. Votre pensée façonne votre caractère. Que la pensée, a dit Paul, de Christ, cette pensée qui était en Christ, soit en vous. Que cette pensée de Christ soit en vous. Cela façonne le caractère d'un fils de Dieu. Or, comment? Écoutez un instant. Comment pouvons-nous avoir la pensée de Christ qui était en lui? Et ensuite, renier les choses qu'il nous a donné le mandat de faire. Comment pouvons-nous considérer que les miracles sont des choses du passé, alors que Christ lui-même était Dieu, et que Dieu est en vous? Dans la présence de Dieu, il y a toujours des miracles. Il a dit, « Vous m'appelez Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et vous ne faites pas les choses que je vous ai ordonné de faire, les choses que j'ai prévues que vous fassiez. Ne voyez-vous pas où nous en sommes arrivés, là où l'Église dérive? Et je trouve ça beaucoup parmi nos pentecôtistes aussi. Nous nous éloignons trop de cette corde de sauvetage. Nous devons revenir à cela, mon ami, revenir, parce que nous devenons nombreux maintenant. Je vois que la publication des hommes d'affaires est la plus importante, peut-être autant que celle d'Oral Roberts. Et je découvre que quand nous augmentons en nombre, nous commençons alors à agir comme des gens importants, voyez, exactement comme Israël l'a fait. Et nous nous mettons à agir comme si nous voulions être pareils aux autres. Souvenez-vous, vous êtes un peuple différent. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple particulier. Eh bien, nous, les pentecôtistes, nous en sommes arrivés au point où nous n'avons plus rien de particulier par rapport au reste du monde. Nous nous habillons, nous agissons, nous parlons, nous faisons les choses qu'ils font, nous courons à la maison, nous regardons la télévision au lieu de rester pour la réunion à l'église. Et nous faisons presque les mêmes choses qu'ils font. Nous cherchons à rivaliser. Nous essayons d'être comme les Jones. Voyez, nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons être faire de cette Bible notre miroir et nous laisser façonner par son caractère, avoir son caractère, sa pensée, laisser la pensée qui était en Christ être en nous. Sa pensée a toujours été, que devait faire sa pensée, la pensée qui était en Christ, toujours s'en tenir à la parole du Père, peu importe ce qui avait l'air brillant. Et ce qui avait l'air comme ceci, ça lui était parfaitement égal. La parole du Père est ce qui comptait. Partout, quand il affrontait le diable, il n'a même jamais utilisé sa puissance pour le vaincre. Il a utilisé la parole, parce que c'est ce qu'il était. Y avez-vous déjà pensé? Il n'a jamais écrit un livre quand il était sur terre. Pour autant que nous sachions, il n'a écrit qu'une seule fois. C'était sur le sable. Ensuite, il a probablement effacé cela. Par après. Pourquoi n'a-t-il jamais écrit un mot? Parce qu'il était la parole. Voyez, il vivait la parole. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de livres quand on devient une épître écrite de Dieu. Voyez, voyez, c'est ce que Dieu veut que vous soyez, des images de lui. Vous savez, dans les contrées païennes, que les païens érigent une idole et se prosternent devant cette idole. Et arrivent à atteindre un tel degré d'émotion qu'ils croient qu'ils peuvent entendre cette idole leur répondre. C'est une affaire mentale. Mais combien c'est l'inverse de la vérité de Dieu? Dieu vous veut, vous. Il ne veut pas une idole. Vous êtes l'image vivante de Dieu. Et vous vous prosternez devant Dieu. Il vous remplit de lui-même. Et vous l'exprimez en tant que miroir. Son Église. Quelle différence, ce que nous avons. Nous voulons être comme les presbytériens, les méthodistes, et avoir une classe sociale aussi haute que la leur. Et il faut que tout soit raffiné et chic, et nous devenons quasiment aussi mauvais. Voyez, voyez, nous nous écartons du sentier battu. Revenez, Église. Je suis animé d'un zèle pour vous, parce que la venue du Seigneur est proche. Laissez-le être l'image que vous exprimez, s'exprimant en vous, parce qu'il accomplissait toujours parfaitement la parole de Dieu. C'est ce que les prophètes ont fait, chacun d'eux. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Et c'est comme ça qu'ils ont reconnu qu'ils l'étaient. Moïse, la parole du Seigneur est venue à Moïse. Plus, la parole du Seigneur est venue à Noé. La parole du Seigneur est venue à Daniel. La parole du Seigneur s'est exprimée à travers les enfants hébreux. Qu'est-ce que c'était quand des hommes, dans n'importe quel âge, ont accepté la parole de Dieu, alors Dieu leur a exprimé cette parole. Noé était une image et un signe du jugement de Dieu qui approchait. Et il a exprimé la parole. Et en se tenant à la même parole qu'il avait exprimée a condamné le monde et a sauvé sa propre famille. Daniel avait résolu dans son cœur qu'il ne se souillerait pas avec le monde. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Cela lui a sauvé la vie. Cela a été pareil pour les enfants hébreux. Et chaque personne qui a jamais servi Dieu, qui est devenu une image de Dieu. C'est Dieu qui a exprimé sa propre parole à travers cette personne. C'est que les enfants hébreux ont dit, « Notre Dieu est capable de nous délivrer. » Ils n'avaient aucune révélation de cela, pas plus que ça. Mais ont-ils dit, « Quoi qu'il en soit, nous ne nous prosternerons pas devant votre statue. » Qu'est-ce que c'était? Ils exprimaient leur foi dans la parole de Dieu. Et Dieu s'est ensuite exprimé et s'est reflété. Il était le quatrième homme qu'ils ont vu dans ce miroir, là, à l'intérieur. Dieu s'exprimant à travers ces images vivantes. Oh là là! Maintenant, regardons dans le miroir de Dieu, la parole, et identifions notre caractère actuel. Eh bien, il se pourrait que je sois piquant un tout petit peu. Je ne prendrai pas beaucoup plus de temps. Oh là là! Je ne savais pas qu'il était si tard. Écart! Je n'ai pas d'horloge ici. J'en ai regardé une hier soir et j'ai prêché pendant environ 2 heures. Je me suis dit, oh, il n'est que 19h. Je vais très bien. Je commence simplement à me réchauffer. Et voilà qu'il était 21h30. C'était le moment de terminer. Remarquez, cependant, nous n'allons pas rester encore longtemps. Permettez-moi simplement de vous donner ceci, là. Écoutez, remarquez, merci. Vous savez, quand... Voyons si nous pouvons nous identifier. Maintenant, écoutez, saisissez bien ceci, ce que je suis en train de dire maintenant, notre caractère actuel. Je vais aller très lentement. Je veux que ça pénètre très profondément maintenant, avant de terminer. Si vous viviez au jour de Noé, Eh bien, pensez un peu à ce que vous êtes. Soyez honnête avec vous-même. Car si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas être honnête avec Dieu. Si vous viviez au jour de Noé et que vous aviez ce caractère que vous avez actuellement, à quel groupe seriez-vous identifié? Maintenant, réfléchissez à ça. À quel groupe? Alors que voici un vieux fanatique qui se tient là sur la colline, et il est éprouvé encore et encore, pendant 120 ans, qu'il a perdu la raison, parce qu'il prédit, il est formel, que de l'eau descendra de là-haut. Et tous leurs instruments scientifiques ont prouvé qu'il n'y avait point d'eau là-haut. Et comme cela ne cadrait pas avec leurs choses scientifiques, comment le Dieu Tout-Puissant pouvait-il faire quelque chose qui était contraire à leur propre raisonnement? Voyez, et on parlait de cet homme. Il était la risée de l'époque. Maintenant, je me demande, oui, posez-vous cette question, à quel groupe seriez-vous identifié? À l'opinion populaire de ce jour-là? Oh, vous dites, je suis membre d'une église. Ce n'est pas de ça que je parle. On avait beaucoup de groupes d'églises en ce jour-là, probablement plus que ce qu'on a maintenant. Mais il y avait quelqu'un qui avait le message de la part de Dieu. C'est vrai, et c'était très impopulaire. Son groupe était très impopulaire, parce qu'il était considéré comme étant un fanatique. Seriez-vous prêt à vous identifier à ce groupe de fanatiques? Le seul moyen pour vous d'arriver à le faire, ce serait que cela vous soit révélé à vous personnellement. Et saviez-vous que c'est le seul moyen par lequel Dieu a bâti son Église? Regardez dans le jardin d'Éden. Comment Abel a-t-il su qu'il fallait offrir du sang au lieu d'offrir une pomme? Oh, voyez, c'était une révélation spirituelle. Regardez, quand Jésus était ici sur la terre, il a dit, à ce moment glorieux et mémorable où il parlait, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Certains d'entre eux disent, « Eh bien, tu es Moïse, ou tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il a dit, « Mais j'irai droit au but. » Vous, qu'en pensez-vous? Voyez, non pas ce que quelqu'un d'autre dit maintenant, mais je veux savoir ce que vous, vous en pensez. Et c'est là que Pierre a pris la parole et a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Maintenant, regardez bien comment il a cité cela. Là, nous savons que l'Église catholique, ce n'est pas pour vous blesser, vous les catholiques, mais vous avez dit qu'il l'a bâti sur pierre, étant la petite pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez? Donc, si l'on est ainsi, alors l'Église a rétrogradé. Voyez? Eh bien, alors, si c'était le cas, elle a été bâtie sur un homme. Or, les protestants disent qu'il l'a bâtie sur lui-même, lui qui était le chef, la pierre angulaire, le rocher. Et ça, ça contient une très grande part de vérité. Mais je vais ajouter quelque chose d'autre ici, juste pour serrer la vis un peu. Je serai en désaccord avec les deux, en disant ceci, que ce n'était pas qu'il parlait de lui-même directement, mais potentiellement, il parlait de lui-même. Et il n'a pas inclus Pierre dans cela, pas plus que sa confession. En effet, écoutez ce qu'il a dit. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Tu ne l'as jamais appris par une expérience de séminaire ou de quelqu'un qui t'en aurait parlé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Alors, c'est une révélation spirituelle de qui est Jésus-Christ. C'est exact. Et il a dit, « Sur ce roc, sur la révélation spirituelle, je bâtirai mon Église. » Cela montrait que toutes les portes du séjour des morts s'élèveraient contre elle, mais qu'elles ne prévaudraient point contre elle. Voyez, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre cette Église. Donc, voyez-vous, Noé avait une révélation spirituelle. Dieu lui avait parlé directement. Abel, quand Cain a offert les fruits des champs, comme des pommes et les fruits, et ainsi de suite, et qu'il embellit son autel. Il a dit, « Dieu acceptera ceci, parce que j'ai fait tout ceci, et j'ai arrangé les grands autels. Ensuite, je l'ai décoré, je l'ai embelli. Nous avons la plus grande église de la ville, et tout. Dieu acceptera cela, de cette manière-là. Il n'accepte l'œuvre des mains d'aucun homme quant à la rédemption. Mais Abel a apporté un agneau et a offert du sang, et Dieu a attesté qu'il était juste. » Comment a-t-il pu savoir ça? Il n'y avait pas de parole écrite à cette époque-là. C'était une révélation. Et c'est pareil aujourd'hui. Vous dites, « Eh bien, je suis membre d'une église. Mon église est aussi bonne que la vôtre. Toutes les deux sont construites du même type de bâtiment, du même type de matériaux. » C'est ça. Le bâtiment n'a rien à y voir. L'organisation, c'est un groupe d'hommes qui se réunissent, établissent un décalogue des choses qu'ils défendent. Et voilà tout. Je n'ai rien contre ça. C'est tout à fait en ordre. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Vous portez le même genre de vêtements, peut-être, s'ils sont décents, ce que feraient d'autres croyants. Mais là encore, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais là, regardez bien ce que c'est. C'est la révélation spirituelle de la parole de Dieu, que tout le reste est faux, sauf cette parole. Et vous y croyez. Il était la parole, il est la parole, et il sera toujours la parole. Et quand Dieu peut ouvrir ce canal, alors il peut couler librement à travers ce corps sanctifié. Bon, là, nous remarquons que si vous aviez vécu dans ce jour-là, à quel groupe auriez-vous été identifié? Au prophète, à la parole confirmée, quoiqu'ils étaient en minorité? Ou auriez-vous été avec ceux qui suivaient l'opinion populaire? Eh bien, je vous le dis, je crois que cet homme est fou. Et le seul moyen pour vous de savoir qu'il n'était pas fou, c'est que le même Dieu vous révèle la même chose qu'il avait révélée à Moïse. Et le seul moyen pour nous de pouvoir un jour devenir les images de Dieu et les fils de Dieu, c'est que Dieu nous révèle et qu'il s'exprime par sa parole à nous et nous au monde. C'est le seul canal, car Christ était l'image ici, sur terre, qu'on pouvait voir. Dieu dans un homme, l'image, l'expression même de Dieu, parce que Dieu était en lui, à tel point qu'ils étaient un. Et maintenant, quand Christ est parti, il a sanctifié l'Église, afin que l'Église prenne sa place à lui et qu'elle exprime la parole de Dieu. Voyez, c'est le seul moyen par lequel cela peut être fait. Oh là là, seriez-vous avec les gens populaires qui suivent l'opinion populaire? Tant que je suis membre d'une église, et peut-être, comme j'ai dansé par l'esprit, je n'ai pas à m'en faire. Peut-être, comme j'ai parlé en langue, je n'ai pas à m'en faire. Ou peut-être, nous avons un bon pasteur, et je n'ai pas à m'en faire. Eh bien, ces choses sont nobles. Je n'ai rien à dire contre ça. C'est vrai. Mais ce plan du salut, c'est une affaire individuelle. Il s'agit de vous. Le parler en langue, c'est un don de Dieu. Danser par l'Esprit, c'est la présence et la gloire de Dieu. Mais pour que vous laissiez votre caractère être façonné à l'image de Dieu, afin qu'il se projette, et vous êtes son idole, qui marche sur la terre, son expression même. Eh bien, auriez-vous voulu faire cela au jour de Noé, ou auriez-vous été dans le camp des critiqueurs, critiquant le prophète et aussi son message envoyé de Dieu? Maintenant, réfléchissez à ça. De quel côté pensez-vous, dans votre état actuel maintenant, vous seriez-vous rangé? Maintenant, soyez honnête. Excusez-moi. Ça ne sert à rien que j'essaye de dire ça. Vous devez y réfléchir vous-même. Ou au jour d'Élie, quand il a beaucoup parlé des visages fardés et de la dame moderne de l'heure, cette Jézabel qui était là à tourner la tête de son mari comme elle le voulait, et que la tête le veuille ou pas, elle la tournait quand même. Et tous les prédicateurs étaient d'accord. Il n'y a rien de mal, voyez, il n'y a rien de mal, car elle est notre reine, voyez. Et ils ont tous facilement suivi cette tendance-là. Et si ce n'est pas là le tableau d'aujourd'hui, je n'en ai jamais vu un. Toutes ces choses ridicules que les gens font, et pourtant, au nom de Christ, comme s'il était coupable de tout cela. Il n'est coupable d'aucune de ces choses-là. Comment savez-vous où il... La parole exprime cela. Examinons la suite pendant quelques minutes. Et voyons, auriez-vous été dans le camp des critiqueurs? Auriez-vous été là-bas avec Élie, vous tenant là quand Élie semblait être tout seul, et que tout le monde pensait qu'il était un vieux schnock, ou quelque chose comme ça? Mais cela ne l'a jamais troublé le moins du monde. Il avait la parole, et avec la parole, il n'avait aucune crainte. muni de cela, il n'avait pas peur. Tout homme qui possède le message de Dieu n'a aucune crainte. C'est vrai. Le brave Étienne s'est tenu là, ce matin-là, devant le Sanhédrin, et il a dit, « Eh bien, vous, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » La Bible dit, « Son visage était comme celui d'un ange. » Je ne crois pas que cela ressemblait à la lumière électrique ou à quelque chose comme ça. Un ange connaît sa position. Un ange n'a peur de rien. Il est un messager de la part de Dieu. Tout homme qui a le message de Dieu connaît sa position. Il ne se soucie de personne, de ce qu'ils ont à dire là-dessus. Aucun évêque, ni rien d'autre, ne peut le pousser à faire ceci ou cela. Il connaît exactement sa position et c'est réglé. Dieu confirme son message et atteste que ce message est vrai. Ainsi, il s'en tient à cela. Il ne recule devant rien. Voilà l'expression même de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il n'avait pas peur de dire, « Oh, vous, pharisiens aveugles, vous êtes ceux qui bâtissent les tombeaux des prophètes, et vous êtes ceux qui les y mettent. Vous êtes de votre père, le diable, et les archevêques, et tout le reste. » Il n'avait pas peur, parce qu'il savait où il en était. Oui. Au jour d'Élie, de quel côté vous seriez-vous rangé? Ou au jour de Moïse, quand il avait un message de Dieu entièrement confirmé? Maintenant, écoutez, avec votre caractère actuel, vous dites, « Je suis un chrétien ». Très bien. Je vais simplement vous demander, avec votre caractère actuel, quelle position auriez-vous prise quand Dathan s'est levé et qu'il a dit, « Maintenant, attends un instant, il y a d'autres hommes saints que toi, ici, Moïse. Nous allons simplement choisir un groupe d'hommes et faire quelque chose de grand ici. Et avant longtemps, nous aurons des évêques, des archevêques et tout le reste ici. Et Dieu est dans son peuple, dans tout cela. Ne pense pas que tu es le seul galet sur la plage. » Quand Dathan s'est tenu là, il a dit, « Vous autres, ne pensez-vous pas ça? Cet homme en prend trop sur lui. » Il essaie de nous dire ce que nous devons faire. Allons, le salut est dans le grand nombre de beaucoup de conseillers. Allons donc, nous devrions tous nous rassembler pour résoudre ces choses. Mais il y avait un message de Dieu. Il avait confirmé son message. Nous n'avons pas à demander à personne d'autre quelque chose au sujet de ce message que nous prêchons. Il est écrit ici, dans la Bible, et Dieu atteste que c'est vrai. Alors, pourquoi devez-vous aller dire, « Bon, vous les catholiques, que devrions-nous faire à ce sujet-là? Nous allons adhérer à la Confédération des Églises. Nous verrons ce qu'il en est. Nous allons nous réunir avec ses frères pour voir comment ils ont établi leur grand groupe. Nous, les pentecôtistes, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'adhérer au Conseil mondial des Églises. Nous avons besoin de nous joindre au groupe céleste. La puissance pentecôtiste, être élevé dans les lieux célestes. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Mais voyez-vous, de quel côté vous seriez-vous rangé avec votre caractère actuel? Si Dathan s'était levé et avait dit cela, et que vous vous seriez tenu là, à ce moment-là, vous seriez-vous accroché au message et au messager de Dieu, et vous en seriez-vous tenu à ça? Car ça avait été entièrement confirmé comme étant la vérité. Ou auriez-vous pris vos papiers et seriez-vous parti pour adhérer à un autre groupe? Oh, c'est... Voyez, réfléchissez un peu à ça. Quand il semblait que tout était contre le message et le messager confirmé de Dieu pour cet âge-là, c'était un moment critique pour Moïse. Tout était fini. On aurait dit que Dieu l'avait abandonné. Mais ils avaient vu Dieu accomplir quelque chose. Ils savaient que Dieu était dans cela. Maintenant, ou au jour de Christ, nous allons nous dépêcher. Au jour de Christ, de quel côté vous seriez-vous rangé? Quand toutes les grandes églises et leurs théologiens et leurs docteurs modernes étaient contre lui et ses principes et son enseignement bien défini des Écritures, ces gens étaient contre ça. Quand l'église que vous fréquentez a dit « Ce gars-là est un fanatique », eh bien, il n'est jamais sorti de nos séminaires. Nulle part, il ne nous a fait mention qu'il soit allé dans nos écoles. Il n'a pas de carte de l'association. Il n'a aucune accréditation. Oh, ce gars-là est fou. N'ayez absolument rien à faire avec ça. Qu'auriez-vous fait dans votre état actuel? Posez-vous cette question un instant. Très bien. Qu'auriez-vous fait? Si vous aviez vécu en ce jour-là et que vous aviez fait partie du Sanhédrin, et ça, c'est comme le Conseil mondial des Églises, et votre Église y serait affiliée, et elle aurait accepté toutes ces choses. Et cet homme s'est levé, et vous l'avez vu faire les œuvres de Dieu, et personne n'a pu lui résister. Pourtant, On prétendait qu'il était un homme fou, qu'il avait perdu la tête. Il était un... Que Dieu me pardonne cette expression. Mais il était l'un des drôles d'oiseaux de cette époque-là. Vous voyez, je fais cette remarque pour que vous compreniez. Pourquoi il était né du ciel? Son caractère était d'en haut. Cela ne correspondait pas à la filiation, aux confédérations de ce monde. Vous voyez, il n'était pas ce genre de personne-là. Où cela en serait-il quand tous les théologiens et tous les docteurs disent « Cet homme, d'où est-il venu? Nous ne savons même pas d'où il vient. » Quand il a guéri l'aveugle, ils ont dit « Eh bien, nous ne savons pas d'où vient cet homme. Donnez la gloire à Dieu. Nous ne connaissons rien au sujet de cet homme. D'où est-il venu? Nulle part, il ne nous a fait mention de lui. Il ne figure pas dans notre programme. Il ne fait pas partie de notre conseil d'administration. Il n'est nulle part. Aucun d'eux ne sait quelque chose à son sujet. D'où est-il venu? L'aveugle a dit, c'est étrange qu'un homme puisse ouvrir mes yeux. Et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. Et vous êtes censés être les conducteurs d'aujourd'hui. Oui. Il a dit, eh bien, s'il est un pécheur ou pas, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas un théologien. Mais il y a une chose que je sais. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça. C'est ça qui compte. Il voulait recouvrer la vue. Oui, vraiment, tous les modernes, tous les docteurs de la Bible étaient contre lui et contre sa parole très claire qui venait de Dieu. Vous croyez qu'il était tout à fait fondamentaliste, n'est-ce pas, dans son enseignement? Mais pas selon leurs écoles. Est-ce que cela a bien pénétré? Comment avons-nous su qu'il était fondamentaliste? Il leur a demandé, « Qui peut attester que j'ai péché? Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Elles vous disent exactement ce qu'il en est. Là, si je ne fais pas ce que disent les Écritures et que le Père ne confirme pas cela à travers moi, alors mettez-moi à la porte. J'ai tort. Oui, monsieur. Maintenant, nous voyons qu'ils étaient contre cela, la véritable parole de Dieu. Oh, votre état actuel vous identifierait-il à lui ou à cette bande de pharisiens aveugles? Est-ce que votre état actuel, vous accrocheriez-vous au credo de votre église? Vous accrocheriez-vous à cela parce que votre pasteur était... Peut-être, vous diriez, eh bien, c'est un homme bon. Il peut être un homme bon et malgré tout être aveugle. Certainement. Jésus n'a-t-il pas dit, vous, aveugle, conducteur d'aveugle? Maintenant, dans votre état, imaginez un peu, que feriez-vous? À qui êtes-vous identifié parmi cette foule-là? Quel est votre état actuel? Seriez-vous du côté des pharisiens? Eh bien, je vous assure, ma mère faisait partie de cette église-ci, et cette église est aussi bonne que n'importe quelle autre. Je resterai ici même, voyez? Et quand vous avez vu la parole de Dieu confirmée, c'est la vérité apportée par le messager, vous avez sondé les Écritures, et vous avez reconnu cela, mais votre dénomination a dit... Les jours des miracles sont passés. Une chose pareille n'existe pas. Eh bien, que feriez-vous dans votre état actuel? Beaucoup d'entre vous l'ont exprimé. Si dans votre cœur, vous disiez maintenant, « Non, je ne serai pas du côté de ces pharisiens. Je ne serai pas identifié à eux. » Alors, qu'en est-il de maintenant? L'Écriture dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'en est-il de maintenant? Vous dites, je ne serai pas identifié à ces pharisiens. Qu'en est-il de maintenant? Vous savez, l'histoire se répète. L'autre jour, j'ai découpé un article dans un journal là-dessus. Les pharisiens de l'époque ont pris position contre lui à cause de leurs préjugés. C'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Souvenez-vous, Nicodème a dit la même chose. Il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, mais parce que leur credo et leur dénomination refusaient d'accepter son message, alors ils ont interdit toute autre personne. » Il a dit, vous refusez vous-même d'entrer et vous interdisez aux autres d'entrer. Voyez? Quelle situation! Je me demande si nous pourrions nous identifier à quelque chose comme ça. Et si vous l'aviez suivi simplement pour voir ces miracles, comme beaucoup l'ont fait, et que vous l'avez suivi aujourd'hui dans l'Église, simplement pour voir ces miracles et assister à tout cela, mais quant à faire un effort pour recevoir vous-même le Saint-Esprit, vous ne voulez pas le faire. Les gens ne veulent pas le faire. Beaucoup l'ont suivi simplement à cause de ces miracles, pour les voir. Mais quand il s'est mis à présenter le véritable enseignement des Écritures, la foule l'a quitté. Alors qu'il le voyait guérir les malades et ouvrir les yeux, une personne pouvait toucher son vêtement. Il se retournait et lui disait ces choses. Et dire ces choses à Philippe et à Nathanaël et à tout cela. Eh bien, la femme au puits et toutes ces choses. Qu'il s'est identifié comme étant le prophète dont Moïse avait parlé, le Christ, le Messie. Alors qu'il n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Puis voici ce Jésus qui est entré en scène, qui a prouvé qu'il était, voyez, qu'il était le Messie. Beaucoup d'entre eux l'ont suivi parce que, dans la première partie de son ministère, il est allé d'église en église. Oh, ils l'ont reçu avec joie et ils l'ont acclamé. Oh, Rabbi, oh, tu es un homme formidable. Mais un jour, il s'est mis à présenter la vérité selon l'Écriture. Puis, quand il s'est identifié, non seulement comme étant un guérisseur, mais comme étant un envoyé de Dieu, avec la vérité et la vie. Quand il s'est identifié à cela, oh, ça, c'était contraire à leur tradition. Même pour beaucoup de ceux qui le suivaient, les 70 ont fait demi-tour et sont partis. Qu'auriez-vous fait? Maintenant, réfléchissez à ça. Quand un homme que vous aviez vu accomplir les signes même du Messie, et vous saviez que le Messie allait venir, et il avait prophétisé que toutes ces choses arriveraient, même à Jean et les autres, et il avait entièrement exprimé cela. Et alors, vous l'avez suivi et vu le grand signe du Messie, qui prouvait qu'aucun des pasteurs ne pouvait résister au message. Pas du tout. Et là, tout d'un coup, il arrive et commence à enseigner quelque chose qui est exactement la parole de Dieu, mais contraire à la manière dont vous avez été enseigné. Alors, vous accrocheriez-vous à votre tradition? Est-ce que vous partiriez avec les 70? Oh, l'Écriture, la parole bien définie. Est-ce que vous partiriez avec les 70? Ou pouvez-vous voir maintenant votre identification? Quelle serait votre position? Maintenant, réfléchissez profondément, sincèrement. Quelle serait votre position maintenant dans votre état actuel? Ou à quel groupe seriez-vous identifié là-bas? Ou pourriez-vous vous identifier très rapidement maintenant? Pourriez-vous vous identifier à cela? Je vais parler aux enfants ici, les adolescents. Aujourd'hui, pourrais-tu t'identifier, adolescent, comme étant un croyant de profession, comme le jeune homme riche? Quelqu'un du genre Elvis Presley, qui aime les plaisirs du monde plus que tu aimes suivre Christ? T'identifierais-tu à ce groupe d'aujourd'hui, et disons, eh bien, comme ce monsieur Presley? D'après ce que j'ai compris, il est pentecôtiste, et en tant que pentecôtiste, de sortir et d'agir comme ça, il n'est pentecôtiste que de nom. Pour moi, c'est un autre Judas. Pat Boone et ces gens qui prétendent être religieux, et ceux qui dansent le rock'n'roll et le twist et la vulgarité du monde. Ensuite, ils se prétendent chrétiens. Eh bien, c'est une honte. C'est pire que le contrebandier d'alcool. C'est pire que la prostituée dans la rue. Dieu respecterait une prostituée plus que ça. Ernie Ford et ceux qui restent debout toute la nuit à faire la fiesta et tout, et qui se comportent n'importe comment, leurs bras autour des femmes. Elles sont sexy et tout. Et après ça, ils s'en vont chanter des cantiques. C'est là que vous vendez votre droit d'aînesse. Comment pouvez-vous vous identifier? Ce jeune adolescent avait il était un homme riche, il avait une opportunité, il était peut-être un homme d'affaires chrétien aussi. Église? Eh bien, adolescente, que ferais-tu à ce sujet quand tu essaies d'agir comme Marilyn Monroe ou certaines d'entre elles, ou certaines des femmes comme la première dame du pays, et ce genre de choses ici, toutes sortes de choses déplacées, et se couper les cheveux, et de la manucure sur le visage, et ces robes moulantes et sexy, et vous, les hommes, vous les laissez faire, et vous, les pasteurs, qui n'avait pas le cran de réprimander cela du haut de la chair aussi. C'est vrai. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, un instant. Écoutez, c'est vrai. Or, souvent, on a des pasteurs donnés par Dieu qui réprimanderont cela. Et malgré tout, on ne veut pas s'aligner sur la parole. Maintenant, écoutez, nous voyons, prenons, ça va dans l'autre sens aussi. c'est vrai. Qu'est-ce que je porte à votre attention? Oh, vous dites, il, je sais ce qu'il en est. J'ai moi-même visité Phoenix ces 15 dernières années, et tout a l'air pareil comme cela a toujours été. Ça ne fait qu'empirer. Donc, ne mettez pas tout sur le dos du pasteur. Oui, disons simplement que nous sommes tous coupables, et tenons-nous là, et regardons-nous dans le miroir.
Oui,
adolescent. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes les louanges de ces gens plus que tu aimes l'invitation qui t'est donnée pour façonner ton caractère à l'image du Fils de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment pouvons-nous faire ça? Oh là là, pouvez-vous voir que vous êtes identifié comme aimant la popularité? Qu'en est-il de... Maintenant, là, je vais parler des choses un peu plus près de nous. Qu'en est-il de vous, les pentecôtistes, qui savez vraiment ce qu'il en est? C'est vrai, vous savez qu'il en est autrement. Vous savez ce qu'il en est. Donc, souvenez-vous de la dernière identification de ce jeune homme riche. Il était dans le séjour des morts, les yeux levés vers un homme qui avait mené une vie droite et il réclamait de l'eau. Mais il avait traversé ce grand abîme sans avoir accepté le moyen de Dieu de le ramener. Voilà où il était et il y est encore ce soir. Et il sera toujours. Très bien. Voilà sa dernière identification. Donc, ne vous identifiez pas à une reine populaire du sexe, ou ne vous identifiez pas à l'un de ces Elvis Presley aux cheveux coupés en brosse, en vous conduisant n'importe comment, avec votre rock'n'roll et le twist, et prétendre être un chrétien, ou un Pat Boone, parce que vous avez une guitare, et que vous pouvez vous tenir là et faire l'imbécile avec ça. Laissez Christ se refléter en vous. C'est ça. Aujourd'hui, les pentecôtistes s'éloignent de la parole de Dieu. Vous identifiez-vous au groupe de Judas? Souvenez-vous, Judas a marché avec lui au début. Maintenant, si cela blesse, mon intention n'est pas de blesser. Mon intention est que ça pique assez fort. Voyez?
Oui.
Judas était parti du bon pied. Il marchait avec lui au début. Mais quand il en est arrivé à avoir un peu d'argent dans ses mains,
ah oui,
je me demande si cela pourrait s'appliquer aux pentecôtistes. Quand nous avons quitté le coin de la rue et que nous sommes sortis de la petite mission de la ruelle, et qu'ensuite nous sommes arrivés à avoir un peu d'argent, je me demande si nous ne nous sommes pas embrouillés dans notre marche. Quand nous avons un groupe de... Peut-être qu'un groupe de gens entre là et disent, « Oh, eh bien, ceci, en parlant de membres, aujourd'hui, tout ce qu'on veut, ce sont des membres, des membres. » Dieu ne regarde pas aux membres. Il recherche le caractère afin de pouvoir placer sa parole dans un individu qui croira en lui. Comme je l'ai dit l'autre soir, Eliezer s'est donné beaucoup de mal jusqu'à ce qu'il trouve le caractère qu'il faut comme épouse. Ensuite, il a dû faire en sorte qu'elle reste tranquille afin qu'elle s'habille correctement pour rencontrer celui dont on parlait. Voyez, eh bien, si vous trouvez le caractère et que vous ne pouvez pas l'amener à s'habiller correctement, ils ne peuvent pas... très bien. Remarquez maintenant, les pentecôtistes modernes. Bon, nous avons parlé aux presbytériens et aux catholiques, mais je vais parler des pentecôtistes maintenant, parce que nous allons prendre ça pour représenter quelque chose. Voyez, le pentecôtisme, n'est-ce pas étrange que les pentecôtistes, dans cet âge moderne, la Bible prédit que ce sera comme Laodicée. Laodicée, il y a un professeur de grec ici qui est en train de m'écouter. Le mot « Laodicée » signifie « une femme ». Laodicée, c'est le nom d'une femme en grec. Aucune autre église n'est représentée par ce nom. Mais là, c'est une femme, une Jézabel. C'est vrai. Et nous nous sommes enrichis, nous n'avons besoin de rien. Mais nous ne savons pas que nous sommes nus, aveugles, misérables, que nous nous sommes écartés du chemin. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons amassé des trésors, peut-être, comme l'a fait Judas, voyez. Puis, nous n'avons plus marché avec cela. Nous avons renié nos principes pour tirer un avantage personnel. Il y a tellement de gens qui font ça. Il y a tellement de dénominations qui font des compromis sur la parole afin d'avoir plus de membres, tirer un avantage personnel. Ils font n'importe quoi. Qu'un pasteur vienne dans une communauté et ils bâtissent une œuvre très bien. Ensuite, ils tiennent la réunion, une réunion générale quelque part, et ils vont renvoyer cet homme pour prendre un petit Ricky, un petit chouchou, et le placer là. Et cela ne fait que disperser les brebis. Si Dieu place un homme là, mais oh, ils font cela lors des conférences, bien des fois, ils s'en prendront à un pauvre frère et le renverront, celui qui a réellement bâti l'œuvre. Et là, ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils se brisent le cou et font du mal à l'Église. Ils ont renié leurs principes pour obtenir la popularité, l'opinion personnelle, l'avantage, personnel de grandes églises, de grandes dénominations. Notre groupe est plus grand que tous les vôtres. Oh, voilà ce qu'il en est. Les baptistes avaient un slogan, 1 million de plus en 44. Mais qu'est-ce que vous avez obtenu? L'autre soir, j'ai dit, des confessions. Les pierres, ce sont des confessions. À quoi sert une pierre quand il n'y a pas de maçon avec l'épée aiguë de Dieu à deux tranchants pour les façonner et les tailler, pour en faire des fils et des filles de Dieu? Oui, Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Souvenez-vous de sa dernière condition. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a douté des affirmations de Christ après avoir commencé à marcher avec lui. Vous, pentecôtistes, ne faites jamais cela. Vous, des hommes d'affaires, ne faites jamais cela. Ne doutez surtout pas de ses affirmations. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Judas a douté de ses affirmations et il est devenu très populaire et il l'a vendu. Le caractère de Judas l'a amené à vendre Jésus à ceux qui le critiquaient. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Très souvent, le caractère que nous laissons se façonner en nous nous amène à nous livrer aux soucis du monde, aux gens qui critiquent. La chose même d'où les pentecôtistes sont sortis, ils retournent tout droit dans ça. Ils sont tout aussi mondains qu'ils l'étaient au départ. Voyez, qu'est-ce que c'est? Nous ne laissons pas sa vie se refléter en nous. Ou est-ce que vous vous voyez identifié à ces véritables disciples? Amen. C'est là que nous voulons être, fidèles à lui, fidèles à sa parole, tenir bon en dépit des critiques. Amen. Est-ce que c'est là que vous vous voyez identifié ce soir? Merci Seigneur. Amen. Laissons la vie de Christ couler à travers eux. Oui, monsieur, ils avaient été sanctifiés par sa venue. Et un homme pécheur, sur la base de la confession et la sanctification, les avait purifiés. Et leur cœur était tellement centré sur Dieu que Christ s'est déversé en eux et a reflété sa présence au monde. En dépit des critiques, ils ont tenu bon comme ils l'avaient fait. Ils sont restés fidèles à la parole, au point où quelqu'un a même dit, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » L'un de ces des critiqueurs. Pouvez-vous vous identifier à Pierre au jour de la Pentecôte? Pouvez-vous vous identifier là, dans Acte 2, alors que les gens disent aujourd'hui, « Le Saint-Esprit n'a été donné qu'aux 12 apôtres. » Pouvez-vous vous identifier à Pierre quand il a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ce même Saint-Esprit, est-ce que vous vous identifiez à lui ce jour-là? Je me range de ton côté, Pierre. Oui, monsieur. Ton enseignement fondamentaliste de l'Écriture, je m'en tiens fermement à ça. Je veux que ma vie reflète l'Écriture, exactement comme la tienne l'a fait là-bas, quand 3000 personnes ont eu le cœur vivement touché. Quand ils ont vu la pleine assurance qu'ils avaient, quelques jours plus tard, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Ils avaient la parole. Ils savaient que la parole vivait bien en eux. Et ils avaient peur d'altérer cette parole de Dieu, parce qu'ils étaient les représentants de cette parole, menant une vie telle que Dieu se reflétait directement là. Il a dit à un homme, « Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas de grands édifices, ni de choses grandioses. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Ce que j'ai, il lui fallait avoir quelque chose avant de pouvoir le donner. Amen. Oh là là. » Voyons que la parole est la même, à toujours et à perpétuité, dans chaque génération. Tous ceux que Dieu appelle verront ce qu'elle reflète. Ou avec Paul, quand le populaire Démas, qui aimait le monde, l'a abandonné pour aller avec ses soi-disant frères chrétiens, qui suivaient l'opinion populaire. Quand Paul s'en est tenu à la parole, Démas l'a abandonné, aimant par amour pour le siècle présent. Il l'a abandonné parce qu'il était fidèle à la parole. C'était trop rigide pour lui. Qui auriez-vous suivi, Démas, ou auriez-vous suivi Paul? Examinez la parole. Dans votre état actuel, de quel côté vous seriez-vous rangé à ce moment-là? Pourtant, ils étaient des chrétiens de profession. Paul a dit, « Tous m'ont abandonné. » pauvre petit homme. J'ai toujours été beaucoup frappé par ce qu'avait dit le docteur Herm Baxter. Il a dit, « Vous savez, la première chose que je ferai quand j'arriverai au ciel ?» J'ai dit, « Quoi donc, frère Herm ?» Il a dit, « Je vais m'avancer directement vers Demas et je vais le gifler aussi fort que je peux. » J'ai dit, « Allons donc, Herm. » Il a dit, « Je lui dirai, « Pourquoi as-tu quitté Paul comme ça, là-bas ?» J'ai dit, « Penses-tu vraiment qu'il sera là-bas, Herm ?» J'ai dit, « Fais attention quant à ton désir de le gifler. » J'ai dit, « Je ne voudrais pas être là où il se trouve, peut-être, vois-tu, pour avoir à faire ça. » C'est comme l'incrédule a dit, ce qu'il a dit à la fillette. Il a dit, « Tu crois cette Bible ?» Elle a dit, « Bien sûr !» Il a dit, « Je suppose que tu crois cette histoire sur Jonas, la baleine qui a avalé Jonas. » Elle a répondu, « Certainement !» Il a dit, « Comment vas-tu prouver cela ?» autrement que par la foi. Elle a répondu, « Quand j'arriverai au ciel, je demanderai à Jonas. » C'est vrai. Il a dit, « Et si Jonas n'est pas là ?» Elle a répondu, « Alors c'est vous qui lui demanderez. » Alors je pense que ça règle la question. Voyez, oui, monsieur, il devra le lui demander. Donc, voyez-vous, alors ça règle la question. Je crois donc que s'il a abandonné Paul et la parole, il a fait la même chose que Judas a faite. Oui, monsieur. De quel côté vous rangeriez-vous dans ce cas-là? Maintenant, écoutez, pentecôtiste, de quel côté vous rangeriez-vous? J'ai passé un savon à ces presbytériens et tout. Maintenant, de quel côté vous rangeriez-vous? De quel côté vous rangeriez-vous ici? Ou, permettez-moi de vous demander une autre chose. Ceci pourrait blesser un peu, mais je veux vous demander quelque chose. Quand la question a été soulevée dans l'église de Corinthe au sujet des femmes prédicateurs, et de ceux qui se coupaient les cheveux, les femmes. Et cette question a été soulevée, et Paul a fermement déclaré ceci. On ne devrait pas faire d'elles des prédicateurs. Paul a fermement déclaré ceci, une femme qui se coupait les cheveux, elle déshonorait son mari. Et on ne devrait même pas la voir prier en public. Quelle, dans votre état actuel, quelle voie suivriez-vous? Maintenant, regardez dans le miroir. Je ferais mieux de laisser ça de côté. J'aimerais que vous regardiez à votre état actuel. Quelle partie, quelle, où regardez-vous maintenant? Qu'est-ce que vous regardez? Paul reflétait Christ. Croyez-vous cela? Certainement. Paul, dites-vous, oh, une femme a dit, elle a dit, il n'était qu'un vieux misogyne. Paul a dit, et là, dans Galates 1:8, si un ange du ciel vient vous prêcher autre chose que ceci, qu'il soit anathème. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que, de quoi êtes-vous le reflet maintenant? Ah oui. Ne vous rangez pas du côté populaire. Rangez-vous du côté de la parole. Ah oui. Oh, oui, monsieur. Il l'a abandonné. Et quand cette question a été soulevée, eh bien, Paul a pris position. Et ils ont écrit, ont dit, c'est le Saint-Esprit qui nous a dit de le faire. Il a dit, quoi? Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce de chez vous seul qu'elle est sortie? Si quelqu'un croit être spirituel ou prophète, il reconnaîtra que ce que j'écris est un commandement du Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Ils s'en tenaient à la parole. Amen. Eh bien, à quoi vous en tenez-vous? C'est vous qui décidez. Vous trouvez simplement votre position. C'est vrai. Oui, monsieur. Là, Paul a pris position pour de la position qu'il occupait. Souvenez-vous, Paul, pour faire ça, maintenant, attendez, je vais vous donner autre chose avant que nous partions. Paul, avant qu'il puisse faire ça, il lui a fallu abandonner la haute position qu'il occupait dans l'église de son jour, pour s'en tenir à la parole. Maintenant, si vous regardez Paul, qu'en est-il de vous quand votre église donne un enseignement contraire à cela? Qu'en est-il de vous, pasteur, prédicateur, laïque? Certainement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait prendre cette position pour que cette semence puisse croître, la semence de la vie éternelle. Il n'était pas en contradiction. Il a dit, « Il en est ainsi, dit la loi. » C'est vrai, il n'était pas. Il s'en est tenu strictement à la parole. Et pour le faire, il fallait qu'il quitte son église orthodoxe pour faire ça, pour que la parole de vie continue à croître. Il fallait qu'il fasse ça. Demas et tous les autres ont dit, « Oh, tu ferais aussi bien de venir. » « Vas-y, Paul, tu n'es pas... » Mais Paul s'en est tenu strictement à cette parole. Ce pauvre petit juif au nez crochu, je veux le voir ce jour-là. Je veux me tenir là, le voir porter cette couronne du martyr quand il sera là. Je veux le voir là et dire, « Voir, Alléluia, Paul !» Amen. Oui, monsieur. Tu t'en es tenu à la parole. Je suis heureux, Paul. Alors, ô Dieu, aide-moi que je m'en tienne à la même chose. Oui, monsieur. Oui. Dans la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps de ces gens qui sont là-haut, j'ai posé la question. Vous avez lu ça dans le condensé, les hommes, l'article des hommes d'affaires. Ils ont dit, eh bien, j'ai dit, est-ce que Paul devra le faire? Ils ont dit, oui, monsieur. J'ai dit, je me suis tenu sur la même chose que lui. Oui, monsieur, je m'en suis tenu à la même chose. Il a fallu que Moïse abandonne un trône pour prendre la parole de Dieu. Il a renoncé à un trône. C'est vrai, il était l'héritier d'un trône. Et il a renoncé au plaisir de devenir pharaon, car il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous dites, eh bien, je vous le dis, les femmes se moqueront de moi. Les hommes penseront, peu m'importe ce qu'ils pensent. C'est vrai, Paul s'est abaissé. Moïse a abandonné un trône. J'en ai toute une liste écrite ici. Ça fait 3 pages. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose très rapidement pour vous aider. Jésus est descendu du ciel pour se refléter sous la forme d'une chair de péché. Et qui êtes-vous ou qui suis-je pour pourvoir d'un moyen pour nous de refléter Dieu, pourvoir d'un moyen pour lui de se refléter en nous, en nous sanctifiant dans sa parole. Car sa parole dit que, quand il l'a fait, c'était afin que nous puissions refléter sa parole. Dans Jean 14, 12, il a dit, « Celui qui croit en moi pourra aussi les œuvres que je fais. » Pourquoi? C'était Christ reflété. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je, le pronom personnel, serai avec vous, et même en vous, voyez, jusqu'à la fin du monde. Oh, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son credo fait de main d'homme, qu'il prenne sa Bible et qu'il me suive. C'est vrai. Oui, monsieur. Alors, vous êtes identifié quelque part dans l'Écriture. Pas de doute. Il faut que je termine. Vous êtes identifié quelque part dans l'Écriture. Vous le savez. Chacun de nous, nous voyons notre identification. Église, nous nous en allons là-bas, à un rassemblement qui était prévu depuis un an. Les églises ont prié. Les gens ont jeûné. J'ai répandu mon cœur tout au long de la semaine. Partout dans cette vallée, dans tous les coins et recoins où j'ai pu me trouver, en faisant tout mon possible pour vous avertir au sujet de la venue du Seigneur. Et nous en sommes là, juste avant que cela commence. Et maintenant, identifions-nous, afin que quand nous serons là-bas, nous représentions ou reflétions Jésus-Christ. Allons-nous nous identifier par une nouvelle coupe de cheveux? Allons-nous nous identifier en portant des vêtements chics? Allons-nous nous identifier par notre manière populaire de nous présenter et de parler, par le niveau d'instruction que nous avons? Alors que Paul a dit que ces choses, il a fallu qu'il les oublie pour pouvoir connaître Christ. Est-ce que la Pentecôte est identifiée en nous? L'est-elle? À quoi? Qu'est-ce que nous nous retrouvons à refléter? Qu'est-ce que nous reflétons de toute façon? Si tout ce que nous avons, c'est beaucoup de bruit et que nous pouvons pousser des cris et jouer et sautiller. Oh, j'ai vu des mahométans faire ça. J'ai vu des singes faire ça. Ne faites pas de remarques. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est la parole de Dieu, voyez? Mais j'ai vu des animaux sauter, jouer, des lapins. Ça ne veut rien dire. Absolument pas. Vous êtes heureux. N'importe quoi peut vous rendre heureux. N'importe quelle petite chose encourageante. J'ai vu des pêcheurs tellement ivres et tellement heureux. Certainement, ça ne veut rien dire. Mais d'où vient ce bonheur? Quelle en est l'origine? Quel effet cela a-t-il sur vous? Qu'est-ce que cela reflète? Quelqu'un niera la parole de Dieu. Quelqu'un vivra dans le monde. Quelqu'un entendra la vérité et s'en éloignera. Il vendra son droit d'aînesse pour obtenir quelque chose d'autre. Oh, que Dieu nous aide, frères, sœurs, qu'il nous aide à revenir et à laisser Christ se refléter aussi en nous, comme ça. Oh là là, que Dieu nous aide à être identifié en lui, tellement que sa parole et sa présence peuvent couler à travers nous, pour qu'il se manifeste au monde, amen, lequel nous devrons affronter. Encore juste une remarque, je termine. Écoutez bien, l'orfèvre se tient prêt maintenant. Vous savez, on trouve les joyaux dans la terre, les matériaux que nous battons. Mais vous savez, Si vous trouvez dans ça quelque chose qui est mélangé, cette pépite que vous avez se brisera. La solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Alors, si vous essayez d'être une pierre découpée de Dieu, un certain matériau, et que vous vous rendez compte que vous cherchez à faire l'important, et qu'au milieu de ça, vous y avez injecté de la mondanité, cette pierre se brisera. Cela ne résistera pas à l'épreuve. Et écoutez, Dieu ne nous acceptera pas. Nous, les pentecôtistes, que nous injectons des dogmes et toutes ces autres choses dans la parole de Dieu, cela va, Dieu rejettera cette pierre et l'écartera sans ménagement. Ne recherchons pas de grandes choses. Recherchons Christ dans notre vie. Recherchons l'humilité. Voyez? Souvenez-vous, si la pierre est grosse et qu'on essaie de surpasser quelque chose, j'ai bien peur que c'est ce que nous essayons de faire. Voilà la conversation que j'ai eue avec ces hommes d'affaires. On dirait qu'ils éclipsent quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je déteste, j'aime être honnête avec vous, frère. Je dois vous rencontrer là-bas, au jugement, un jour. C'est la raison pour laquelle l'Église pense que je suis contre l'Église. Je ne suis pas contre l'Église. Je suis... Pourquoi est-ce que je m'identifierais avec vous, ici? Si je pensais que les baptistes ont raison, que les méthodistes ont raison, que les presbytériens ont raison, je serais avec eux. Je suis ici avec vous. Parce que je m'identifie ici avec vous. Mais n'essayez pas de dépasser vos limites maintenant, d'être quelque chose que vous n'êtes pas. N'essayez pas de faire de vous quelqu'un d'important, de rivaliser avec quelqu'un d'autre et d'introduire là-dedans de la mondanité pour obtenir plus de membres et tout. La chose se brisera carrément en deux et Dieu jettera cela sur le monceau tout là-bas pour que cela soit façonné de nouveau. De ces autres pierres, il suscitera des enfants à Abraham. C'est vrai, il le fera. Il prendra les presbytériens et fera sortir d'eux quelque chose. Les méthodistes ou les baptistes, il semble que c'est ce qu'il a commencé à faire. Est-ce que vous m'entendez, les hommes d'affaires? Juste parce que nous portons le nom de Pentecôte. Cela ne veut rien dire pour Dieu. Non, monsieur. La Pentecôte, ce n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est une expérience. C'est un reflet de Christ, là où il a commencé, au jour de la Pentecôte, à se refléter à travers les gens. Puis, les gens commençaient à ajouter de la mondanité. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont entrés dans le concile de Nicée et ils ont rejeté les promesses claires de Dieu et y ont injecté des dogmes. Elle a mis totalement en pièce l'expérience chrétienne et elle s'est lancée dans le catholicisme. Luther a commencé une réforme et il a introduit quelque chose. Et cela a de nouveau brisé la chose. Les méthodistes sont venus avec la sanctification, et il a commencé à introduire quelque chose, et il a fait la même chose. Et les pentecôtistes font exactement la même chose. Oh, eh bien, vous le regardez, vous pouvez le voir. Comment pouvez-vous, vous dites, comment pouvez-vous savoir ces choses? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Frère Branham, est-ce que vous êtes en train de prophétiser? Je ne suis pas exactement en train de prophétiser, mais si un médecin examine un patient, il voit les symptômes, il sait ce qui va arriver. Je lis dans le livre du médecin et je vois les symptômes que présente l'Église pentecôtiste. Alors je sais vers quoi elle se dirige. Arrêtez ça! Cessez! Revenez! Que Dieu vous aide! Ne prenez pas cette direction-là, les amis! Ne voyez-vous pas ce que j'essaie de faire? Je m'efforce de tout mon être d'essayer de vous sauver de cette chose insensée dans laquelle vous vous dirigez. Jour après jour, année après année, je crie de tout mon cœur. Et vous pensez que je suis votre ennemi? Je suis votre frère. Revenez! Ne prenez pas cette direction-là! Ne voyez-vous pas ce qui est arrivé quand les autres ont pris cette direction-là? Homme d'affaires, tenez-vous loin de ce chemin-là. Maintenant, vous écrivez toutes sortes de credos dans vos magazines, et cela vous associe tout autant à une dénomination que les autres. Vous savez qu'il en est ainsi. Ne voyez-vous pas que vous vous dirigez directement dans la chose contre laquelle vous vous êtes élevé? Là, vous n'allez peut-être pas m'aimer, où que ce soit. C'est vrai. Notez bien ce que je vous dis. Faites demi-tour. Sinon, vous êtes fichus. Les pentecôtistes, faites demi-tour. Sinon, vous êtes fichus. Revenez à la parole. Il est plus tard que vous ne le pensez. Dieu veut être reflété, non pas par des membres, mais par des pierres véritables qui sont polies, formées et façonnées. Remarquez, l'orfèvre est ici ce soir, prêt à ôter toutes les impuretés de l'incrédulité, tout ce qui est contre vous. Et par, il est ici, prêt à vous façonner et à vous former pour faire de vous des croyants, en ôtant de vous tout doute. Au chemin, vous avez vu tellement d'imitateurs venir qui disent « Ceci est gloire à Dieu, j'ai ceci, et Alléluia, j'ai ceci ». Mais vous vous rendez compte qu'ils n'ont rien. Et le diable a fait ça pour faire naître un doute dans votre cœur. Voyez, il l'a fait délibérément pour que cela arrive. Mais souvenez-vous, ça montre simplement une chose, c'est qu'il existe une chose authentique que cet imitateur essaie d'imiter. Il y a un authentique Saint-Esprit. Il y a un authentique Esprit de Dieu. Il y a un authentique puissant de Dieu. Il y a un Fils de Dieu qui se reflète ce soir comme étant le Saint-Esprit pour manifester sa vie. Il est ici ce soir, au milieu de vous, sous la forme du Saint-Esprit, pour ôter avec force toutes les impuretés de vous, les doutes, et vous refléter sa résurrection pour montrer qu'il n'est pas mort. Et il est ici pour vous montrer qu'il est vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici pour s'identifier avec nous. Ne devrions-nous donc pas nous identifier à lui, croire sa parole et l'accepter? Prions. Ô Seigneur Dieu, comme nous te remercions, Seigneur. Il nous est dit dans l'Écriture que quand David, quand l'ennemi s'approchait et qu'ils s'étaient rassemblés et David essayait de leur parler de Dieu, quelqu'un s'est levé au milieu d'eux. Il a prophétisé et leur a dit quoi faire et comment vaincre l'ennemi. En vérité, Seigneur, nous croyons la même chose. L'Esprit de Dieu descend au milieu de nous, et la parole est l'endroit où vaincre l'ennemi. C'est ce que tu as donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, pour vaincre l'ennemi. Lorsqu'Ève a raisonné avec cela et a introduit des raisonnements dans la parole, ça s'est effondré et le péché est entré. C'est vrai, Seigneur, c'est ce qui a entraîné la chute de l'homme au fil des âges, d'essayer d'injecter quelque chose à la parole. Sarah a essayé de faire la même chose, d'injecter quelque chose, de prendre Agar pour avoir l'enfant. Mais cela a échoué. Ça a toujours été ainsi, Père. Nous voulons simplement ta parole, et elle seule. Rien qui est ajouté, ni rien qui en est retranché. Simplement comme elle est. Et tu es cette parole. Et nous en sommes reconnaissants. Bénis les gens qui sont ici, Seigneur. Là, j'ai, lors de ces soirées, l'une après l'autre, essayez de dire ces choses, que ta venue est proche. Toutes les choses se dirigent dans ce sens-là. Et suite à une vision, il y a quelques semaines, j'ai été envoyé ici, en Arizona. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il s'agit du moment pour moi de rentrer à la maison. Je ne sais pas. Il semble vraiment que c'est ce qu'il en est. Mais, Seigneur, permets-moi d'achever ma course avec et de garder la foi, en gardant mes vêtements sans tache, Seigneur, par la grâce de Christ. Permets que je puisse me tenir là, ce jour-là, et dire, je vous annonçais tout le conseil de Dieu, comme je savais que c'était la vérité, et je n'ai rien caché. Accorde-le. Puissent mes frères, Seigneur, de même s'unir et avancer davantage, et savoir que ces exhortations, ce n'est pas une réprimande, mais que c'est un avertissement, et qu'ils doivent être vigilants à la croisée des chemins. Accorde-le, Père, comme ce qui vient de nous être dit, qu'il nous jugerait par cette parole du message. Ô Dieu, que je me regarde, et j'en ai honte, Seigneur, dans le miroir de la parole de Dieu. Je combats, et je combats honnêtement pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes, comme Jude a dit que nous devrions le faire. Et il nous a été promis que, dans les derniers jours, cette foi des pères serait rétablie et ramenée de nouveau à la foi pentecôtiste originelle. Tu l'as promis dans Malachie 4. Tu as dit que cela arriverait. Et Père, puissions-nous être vigilants et nos yeux être grands ouverts et ne pas passer à côté de cela comme ils l'ont toujours fait au fil des âges. Mais puissent nos yeux être ouverts afin de voir Jésus-Christ comme il est manifesté dans sa gloire parmi son humble peuple pour faire sortir du milieu de ces nations un peuple à cause de son nom. Accorde le Seigneur. Bénis cette assemblée maintenant. J'ai parlé longtemps. Seigneur, je ne peux pas m'excuser parce que je me suis senti conduit à dire ce que j'ai dit, de les avoir retenus longtemps. Mais je te remercie pour des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont capables de rester debout et qui se tortillent et qui essayent de garder leurs pieds au sol et qui écoutent le message. Je te remercie pour des églises comme celle-ci qui ouvriront la porte et diront « Entrez, enseignez-nous ou prêchez parmi nous, aidez-nous, ô Dieu ». Je te remercie pour de telles églises. Je te remercie aussi pour une oasis pour le monde des affaires, ces hommes d'affaires. Ô Seigneur, puissent leurs vêtements demeurer sans tache des choses qui viennent du monde. Accorde-le. Fais un lieu où sauver les âmes, Seigneur, afin que peut-être, s'il y a quelque part des gens qui n'iraient pas à l'église, qu'ils iront entendre des hommes d'affaires parler et puissent leur vie être tellement salée par la grâce de Dieu et l'humilité de son esprit, que le monde éprouvera un vif besoin d'être ce genre d'homme-là. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous tous maintenant. Seigneur, pardonne-nous nos manquements, pardonne nos péchés, et fais que les canaux de notre cœur soient ouverts. Puisse le roi de gloire venir au milieu de nous maintenant, si nous avons trouvé grâce à tes yeux en nous repentant de nos torts. Il n'y a pas de doute, mon cœur s'est repenti, beaucoup d'autres cœurs se sont repentis, et si nous avons trouvé grâce, Seigneur, façonne-nous maintenant, purifie nos temples, afin que la parole du Dieu vivant puisse vivre parmi nous et prouver que Jésus-Christ n'est pas mort. Il n'est pas un fondateur mort, comme Mahomet ou Bouddha ou certaines des autres sectes. Il est vivant, au temps présent, maintenant. Jésus ressuscité, il est vivant pour toujours et il ne peut plus jamais mourir. Et il nous a donné la vie éternelle et s'est présenté au milieu de nous. Et nous, Seigneur, nous reflétons sa grâce aux autres. Aide-nous, Père, comme tu as promis que ce qui arriverait dans les derniers jours, ce serait exactement comme au jour de Lot. Puissions-nous, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, rentrer à la maison ce soir en nous réjouissant, parce que nous te voyons faire quelque chose comme ils t'ont vu le faire après que tu aies ressuscité des morts, sachant que c'était la même chose que tu avais faite avant ta mort. Alors ils ont reconnu que tu étais ressuscité. Accorde-le, Père. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Eh bien, là, j'ai parlé longtemps, mais ceci, je ne sais pas s'il ferait ceci. Je ne sais pas s'il le fera. Je vais simplement le lui demander. Je crois que si je mets ma vie ici pour m'en tenir à cette parole, alors, pour autant que je sache, je ne suis pas exempt de péché. J'en ai beaucoup qui s'accrochent à moi. Mais chaque heure, je les confesse constamment. Lorsque je vois mes fautes, alors je m'en détourne et j'essaie de faire ce qui est juste. Je n'essayerai pas d'aller au ciel par mes mérites. Je n'y parviendrai pas. Je me confie strictement en Jésus-Christ. Il est celui en qui je me confie. Je crois en lui. Je n'essaierai pas d'y entrer parce que je suis un frère pentecôtiste. Je n'y entrerai pas par les mérites des pentecôtistes. J'y entre par les mérites du sang de Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Et c'est en cela que je veux que vous vous confiez ses mérites à lui. Et alors, comment savez-vous que vous y arriverez? C'est quand chaque parole est, vous la ponctuez d'un « Amen, Amen ». Car c'est la parole elle-même qui essaie de se confirmer elle-même. Et si nous nions cette parole, comment peut-elle se confirmer elle-même? Or, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Est-ce vrai? Puis, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 5, 19? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il est passé par la piscine de Bethesda. De grandes foules de gens étaient couchées là. Peut-être qu'ils étaient 20 fois ou 30 fois plus nombreux que ceux qui sont dans ce bâtiment ce soir. Il y a peut-être 400 ou 500 personnes assises ici ce soir. Je ne sais pas, mais il y en a peut-être autant. Mais peut-être qu'il y en a des milliers. D'après ce que je comprends, une grande foule, cela s'élèverait à des milliers de personnes. Couchés là, se trouvaient des estropiés, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Il a guéri un seul homme, parce qu'il savait que cet homme avait été dans cette condition. Le Père le lui avait montré, voyez. Il a laissé tous les autres, voyez. Et alors, on lui a demandé cela. Mais la Bible dit qu'après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, que ce soir, il est un souverain sacrificateur. Croyez-vous cela? Croyez-vous qu'il est toujours vivant? Et est-il un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités? Eh bien, s'il est le même souverain sacrificateur, d'après Hébreux 13:8, alors il agirait de la même manière. Pas vrai? Maintenant, puissions-nous purifier notre cœur de tout péché, puissions-nous confesser nos fautes, puissions-nous confesser notre incrédulité, que nous avons eu tort, et dire, « Seigneur Jésus, me voici, j'ai un besoin ce soir, reflète-toi dans ma vie, donne-moi la foi que cette femme avait, celle qui a touché ton vêtement. » Et je dirais, « Seigneur Jésus, je m'en suis tenu à ta parole. » Telle était ma commission, prêche la parole. Je m'en suis tenu à elle, je veux mourir par elle. Et je me suis tenu là, et j'ai fait des choses difficiles à cause de la parole. Et je m'en suis tenu à ça, mais il l'a toujours confirmé. Maintenant, je compte sur lui pour qu'il confirme cette parole, que cela jette, qu'il coule à travers nous ce soir, alors que nous prions. Combien sont malades ici, dans le besoin, qui ont un besoin quelconque? Levez la main et dites, « C'est moi, Seigneur. » Je crois, Seigneur. Je désire maintenant avoir toute votre attention, aussi doucement que possible, pendant quelques instants. Si, après ce message, et Christ se reflète dans les gens, et voit qu'une pauvre âme a assez de foi pour toucher son vêtement, et que je peux m'abandonner à son esprit, et qu'on reconnaît que ceci, c'est le Saint-Esprit. Alors, si vous faites partie de quelque chose d'autre qu'un groupe qui croit ceci, alors j'irai là où l'on croit la vérité. Voyez, je le ferai, certainement. Je croirai, parce que Dieu se fait connaître. Là, ne vous identifiez pas aux pharisiens et à ceux qui ne croient pas, ceux qui sont aveugles. Parce que Jésus a dit qu'il ne le verrait plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, je serai en vous. Vous me verrez. Eh bien, s'il est ce même souverain sacrificateur, c'est de cette manière-là que vous le verriez. Il se reflèterait de la même manière qu'il l'a fait autrefois. Pas vrai? Très bien. Maintenant, croyez de tout votre cœur. Ayez la foi. Ne doutez pas. Priez. Et alors, nous verrons ce qu'il a dit. Maintenant, croyez simplement de tout votre cœur. Maintenant, ô Dieu notre Père, j'ai parlé de toi et pour ta parole. Je l'ai fait d'une manière décousue, Seigneur, je le sais, mais je l'ai fait de mon mieux. Pendant toutes ces 2 semaines, je m'en suis constamment tenu à elle, Seigneur. Toute ma vie, j'ai essayé de m'en tenir à elle. Maintenant, Seigneur, honore ta parole ce soir, ici, alors que ces réunions de réveil se terminent. Que l'on sache, Seigneur, que si nous prenons position pour ce qui est vrai prendra position pour nous. Accorde-le, Seigneur. Nous croyons que tu es devenu nous pour prendre notre péché, afin que nous devenions toi des fils de Dieu, pour refléter la parole de Dieu confirmée. Tu l'as manifestée par notre ministère, la vie que tu nous as donnée. Accorde-le, Seigneur. Nous nous offrons à toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ayez simplement la foi. Ne doutez pas, mais croyez de tout votre cœur maintenant. Croyez-vous? Que chacun croit. Maintenant, ne doutez pas. Priez simplement en silence. Ayez la foi maintenant. Ne doutez pas du tout. Tranquillisez-vous maintenant. Écoutez ce que l'Esprit vous dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu.
What you looking at me so sincerely about?
Pourquoi me regardez-vous avec tant de sincérité? Vous croyez que je suis son serviteur? Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Vous êtes simplement une femme assise là qui me regarde. Ce n'est pas exactement au sujet de la maladie qu'elle est inquiète. Elle est inquiète pour quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une jeune fille. Elle vient d'être portée disparue. Elle a quitté la maison. C'est juste une fille, une jeune adolescente. Ceci avait été préparé depuis longtemps. Jusqu'ici, je ne la vois pas en danger. Ayez la foi. Croyez en Dieu. Il la renverra à la maison auprès de vous. Qu'est-ce qu'elle a touché? Bon, vous voyez cette femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est totalement inconnue. Voici une dame assise juste ici derrière, les yeux fermés. Elle prie. Elle souffre d'un problème rectal et il s'agit des hémorroïdes. Elle souffre du cœur. Elle va passer à côté. Oh Dieu, aide-nous. Madame Willingham, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Là, vous le recevez. Maintenant, demandez à la femme. Nous sommes totalement inconnus. Vous dites, vous l'avez appelée par son nom. Eh bien, Jésus n'a-t-il pas dit à Simon, « Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Ayez simplement foi en Dieu. Le croyez-vous? Maintenant, soyez sincères. Croyez, ne doutez pas. Fixez simplement vos pensées sur Dieu et croyez en lui. Que fait-il? Il s'identifie. Il se reflète. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas vrai, je vous demande de venir à la chair et de faire la même chose. Il y a une petite femme. Elle est assise là, derrière, avec un châle sur la tête. Elle est espagnole. Et elle prie pour sa fille. Cette fille n'habite pas ici. Elle vient maintenant de mettre ses mains sur son visage. Et elle est... Cette fille vit quelque part où il y a beaucoup d'eau, où la mer mugit, à San Diego, en Californie. Elle souffre de varices et elle a des complications. Elle est au bord d'une dépression nerveuse. Croyez-vous que là, votre prière a touché le bord de son vêtement, ma petite sœur espagnole, et que votre fille retrouvera la santé? Si vous le croyez, levez la main et acceptez-le. Très bien, ça vous est accordé. Ça s'éclaircit maintenant autour de vous. Ne doutez pas. Croyez. Cela vous a vraiment frappé, n'est-ce pas, madame? Vous qui êtes assise là, vous avez mis la main sur votre nez, puis vous avez essuyé votre visage. Vous avez dit quelque chose à quelqu'un de l'autre côté de l'allée. Vous qui portez une veste bleue, assise là. Oui, très bien. Si vous croyez de tout votre cœur, alors ce cœur se rétablira et vous ne souffrirez plus des problèmes cardiaques que vous aviez. Si c'est exact, levez-vous, simplement pour témoigner que c'est vrai. Cette dame, je lui suis inconnue. Amen. Croyez-vous? Certainement. Oui, croyez toujours. Je vois, c'est un homme plutôt d'âge mûr. Voyez-vous cette lumière ombre qui est suspendue juste là, qui se déplace au-dessus de cet homme? Il est maintenant en train de prier. Il a la tête baissée. Et quelque chose vient d'être dit qui a attiré son attention et l'a poussé à prier. En effet, il vient aussi de la Californie, comme on vient de le dire. Mais lui, il est de Fresno, en Californie. Il souffre d'asthme. Monsieur Corolle, si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez rentrer chez vous et être rétabli. Vous aussi. Amen. Croyez-le maintenant. Si cela est vrai, levez la main. Sommes-nous des inconnus? Levez la main. Très bien. Croyez-vous? Qu'est-ce que cet homme a touché? Il a touché Jésus-Christ. Il est à 9 mètres de moi. Je vous mets au défi, au nom de Jésus-Christ, de croire que ce message du Saint-Esprit, dans ces derniers jours, marque la fin de l'histoire du monde. Je vous mets au défi de croire que je vous ai enseigné cela ce soir. Vous croyez que Dieu m'a envoyé. Vous honorez cela. Et là, ne m'honorez pas, moi, mais honorez ce pourquoi il m'a envoyé, sa parole. Et Dieu vous accordera votre requête. Je ne peux pas faire en sorte qu'il le fasse, sauf si vous croyez. Là, regardez là. Ne pouvez-vous pas voir cela? Regardez là. Cette lumière, juste ici, elle se tient juste au-dessus de cette femme corpulente, assise ici. Je ne connais pas la femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais elle est malade. Elle souffre. Elle est allée chez un médecin. Et quelque chose, un examen, a révélé que c'est dans le côlon. C'est un peu comme des plaies. Non, le médecin dit que ce sont des ulcères dans le côlon. C'est exact. C'est exact. Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes ici en visite. Est-ce vrai? Levez la main. Vous venez du Michigan. C'est exact. Vous êtes ici pour visiter votre fils. Il est dans le domaine de la radio, quelque chose comme ça. Votre nom est Madame Herb. Ayez foi en Dieu. Rentrez chez vous et voyez que votre condition sera comme vous le voulez. Si vous croyez de tout votre cœur, croyez-vous? Êtes-vous prêt à ce que les impuretés de l'incrédulité soient ôtées de vous? Croyez-vous que vous pouvez voir Christ se refléter le même hier, aujourd'hui et éternellement? Il est Dieu! Croyez-vous cela? Dites Amen si vous le croyez. Alors, posez vos mains les uns sur les autres. Je vais vous montrer sa parole. Si vous êtes des croyants, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Posez vos mains les uns sur les autres maintenant. Fermez vos yeux, courbez la tête, priez les uns pour les autres. Vous, priez, ce n'est pas moi. Vous, priez, Christ est au milieu de vous, dans l'auditoire. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus, que Christ soit reflété dans chaque vie, ici ce soir. Et guéris les malades, Seigneur. Nous chassons tout démon d'incrédulité, afin que l'Église de la Pentecôte puisse voir le reflet de Jésus-Christ dans leur vie, comme ils l'ont vu ce soir.